Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, document d'archives de Radio Courtoisie du 27 novembre 1991, diffusé mercredi 12 août 2015 de 18h à 21h. Il est également diffusé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, bonsoir à tous. C'est vrai que Fabienne est la seule qui soit belle, souriante et de bonne humeur ce soir. Vous n'êtes pas belle, vous, d'abord, ce soir.
Ça, moi, c'est toujours.
Mais non, d'habitude, vous êtes bête, mais là, vous avez une espèce de côté sombre dans le regard.
Vous n'imaginez pas, ils sont d'une humeur de dog.
Est un dog. Philippe Varley, je le dénonce. Enfin, tout le monde et moi-même, je ne suis pas de très bonne humeur parce que je m'en vais vous dire ce qui se passe. J'avais un petit mal de gorge. Et je vous raconte tout.
Oui,
est-ce que je dis bonsoir aux auditeurs ?
Non, même non, pas.
Enfin, je dis bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Donc j'avais un petit mal de gorge et qui est d'origine allergique.
Ah oui.
C'est intéressant.
Vous êtes allergique à quoi peut-être ?
Eh ben, je vous dirai ça plus tard. Et alors, c'est de plus en plus difficile d'y échapper. Alors, je suis allé dans une pharmacie, j'ai demandé un produit, on m'a donné un produit, j'ai sucé une pastille, et puis après avoir sucé la pastille, j'ai trouvé que ça ne m'avait pas guéri du tout, et j'ai regardé contre-indication allergie.
Donc, je
remercie vivement, quand je suis allé voir la pharmacienne pour lui dire, vous savez, j'ai une petite irritation allergique à la gorge, elle m'a donné une pastille. La contre-indication, c'est l'allergie. Donc, c'est du beau travail, quand même. Donc, si vous ne m'entendez plus d'un seul coup pendant l'émission, c'est que j'aurai un œdème.
À ce moment-là, nous lui apporterons un peu d'alcool et ça l'arrangera nettement.
Oh, pas du tout.
Mais si, c'est très bien. L'alcool.
Alors, donc, ce soir, nous allons parler de diverses choses, mais pour l'essentiel, nous allons évoquer d'abord une affaire qui est un scandale pur, qui est le transfert de la manufacture des Gobelins.
Vous savez
que la manufacture des Gobelins va être transférée. Donc on va en parler parce que c'est comment on assassine un quartier de Paris. Ensuite, nous allons parler d'un livre qui est le livre de Madame la Comtesse de Paris, Blanche de Castille, mon aïeul. Et nous parlerons d'un autre livre qui est le livre de Monsieur Pasquier qui s'appelle Écologie traditionnelle de Louis Pasquier. Louis Pasquier, vous le connaissez, c'est un habitué de ce micro. Et là, ce soir, il va être reçu comme auteur d'un livre fort intéressant, Écologie traditionnelle. Sera présent également dans cette émission Serge Martinez, qui fait son entrée dans le studio et qui prend décidément goût à la communication radiophonique.
Où sont les fanfares,
non ? Les fanfares. Pourquoi vous voulez les fanfares ?
Pour les entrées, moi je trouve qu'on devrait maintenant.
Ah, il faudrait bien, ça c'est amusant. On va faire ça. On va faire la fanfare des. Non pas des centurions, mais des. Comment appelle-t-on ça ? Les gens qui se battent, des gladiateurs. Merci Philippe, je suis fatigué ce soir.
Ce sera bien.
Alors d'abord, je voudrais donner des nouvelles de la mendicité. Vous savez que c'est une émission de
mendicité. Pas la mendicité, mais enfin, qu'est-ce que c'est ça ?
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des auditeurs.
C'est des vilains auditeurs.
Alors j'ai reçu un message adorable de Sœur Lydia qui remercie. Vous savez combien on a. Est-ce que vous savez combien l'émission d'il y a 15 jours a permis de. Comment dirais-je ? De récolter, de.
Bah vous aviez mis la barre.
De mendigoter.
À 60 000, non ?
Et oui, et ben 60 000 plus 10 000, 70 000.
Ouais !
C'est-à-dire qu'on a payé, enfin on a, les auditeurs de cette émission ont versé 70 000 francs. Elle a reçu, Sœur Lydia, 70 000 francs de chèques, c'est-à-dire que ce n'est pas des promesses.
Non,
on avait eu, nous,
oui, c'était des
47 000 francs de promesses.
Oui.
Et comme toujours, comme l'année dernière, les promesses ont outrepassé, contrairement aux hommes politiques, nos auditeurs tiennent les promesses, même celles qu'ils ne font pas, même celles des autres, comme disait le maréchal Pétain.
Mais c'est bien comme ça, au moins les petits auront chaud.
Alors donc, ça y est, problème réglé, l'installation de chauffage est faite dans l'orphelinat de Notre-Dame des Dons pour l'enfance heureuse, qui se trouve dans la Beka, la plaine de la Beka, ou plutôt sur le plateau de la Beka. Alors, Sœur Lydia nous remercie sur tous les tons de la gamme grégorienne, et même peut-être des autres. Elle m'a dit combien elle était. Elle a même dit que Radio Courtoisie était sa providence. Ce qui, de la part d'une bonne sœur, est quand même pas mal.
C'est très bien.
Moi, je pensais que la Providence était beaucoup plus haut que ça.
Vous sentez pousser l'auréole,
j'espère. Non, moi, je suis rien dans cette histoire. Mais c'est vrai que c'est une belle réussite. Et il faut d'ailleurs rendre hommage également à notre ami Wermeling, de l'Association des Nations d'Europe Chrétienne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne me souviens jamais. Mais enfin, c'est cette organisation-là qui avait versé 10 000 francs. Et c'est les 10 000 francs en sus, en quelque sorte. En...
Ah ben c'est voilà, venu. Donc on a eu les... Oh,
mais c'est on a eu 60 000 francs par les auditeurs, les... c'était la somme nécessaire, plus 10 000 francs, ce qui va permettre d'acheter un peu de fuel. Pour,
donc ça, c'est
voilà.
Calculé.
Hein, c'est bien.
Ah,
hein. Oui,
oui.
Non, mais c'est, quand c'est la Providence qui s'y met, c'est toujours hyper calculé. Et puis nous avons aussi une lettre de l'abbé Vincent Seralda, qui est, vous savez, le chapelain de la chapelle des Saint-Germain de Wagram, avenue des Ternes, et dont on avait annoncé la vente de charité annuelle, et qui me dit bien des fidèles nous ont rappelé, enfin nous ont fait savoir en approchant les comptoirs de la salle Wagram qu'ils venaient à l'invitation de Radio Courtoisie, et il ajoute, le trésorier de notre communauté Saint-Germain m'assure que nous vous devons un beau merci.
Ah, ben c'est bien
voilà.
Aussi.
Vous donc vous voyez, ça marche quand
oui,
même,
oui,
cette
oui,
radio.
Elle
n'est pas écoutée que par des gens qui...
Elle est écoutée par des gens gentils.
Voilà. Alors, je suis content de vous apprendre, d'autre part, que quand même, le Rassemblement pour la République, dont vous avez peut-être entendu parler, vient de publier une publicité qui est tout à fait intéressante. C'est illustré par une voiture de police incendiée. Et ils nous disent... Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que le Rassemblement pour la République, c'est le RPR, n'est-ce pas? Alors, que propose le RPR? Et maintenant, propose le RPR, si on arrêtait le laisser-faire. Oui, merci. C'est une bonne remarque. Je vous remercie de l'avoir faite. Et alors, comment arrêter le laisser-faire? Eh bien, il faut stopper l'immigration, réussir l'intégration. Vous voyez? Alors, pour stopper l'immigration, un accès à la nationalité française ne doit rien devoir au hasard, nous dit le RPR.
C'est bien, hein, ça.
C'est marrant, on dirait les... Non, c'est pas les 50, mais on dirait. Réussir l'intégration des étrangers qui veulent vivre et travailler en France, c'est d'abord stopper l'immigration. Pour cela, il faut mettre fin au détournement du droit d'asile, rétablir la loi Pascoa-Pandreau sur les reconduites à la frontière, et moi je me marre, et donner aux maires les moyens d'un contrôle efficace de l'installation des étrangers dans leur commune. Alors, je voudrais simplement que le RPR m'explique. Hein, je sais pas, enfin, je pourrais demander à Serge, qui est homme politique, Serge Martinez, qui est homme politique,
des hommes politiques.
Qui fait partie des hommes politiques, s'il n'y a pas une légère incohérence dans le truc qui consiste à dire, pour arrêter l'immigration, il faut donner aux maires les moyens d'un contrôle efficace de l'immigration, en fait, de l'installation des étrangers sur leur commune.
Mais s'il n'y en a plus, ils ne s'installent plus, bon.
J'allais dire que tu as un sacré culot, Serge, puisque c'est moi qui t'ai montré, qui t'ai souligné cette contradiction. Alors, il me pique le scoop, et après, il me demande ce que j'en pense.
Bah, écoute, ça, c'est nos trucs, quoi.
Voilà,
il ne faut pas révéler les petits secrets.
Oui, je trouve qu'ils sont absurdes. Enfin, de toute façon, tous ceux qui liront, et c'est dans Libération d'ailleurs, ça prouve qu'ils s'adressent à une cible qui est très proche de la leur, puisqu'ils s'adressent aux socialistes.
Ah oui, c'est une publicité passée dans Libération.
C'est dans Libération, oui. C'est leur famille,
c'est
leur nouvelle famille peut-être.
C'est le journal de M. Toubon, tout très loin.
Et les mesures révolutionnaires sont effectivement de nature à régler complètement les problèmes de la France.
Alors,
puisque,
deuxièmement, assurer la sécurité,
oui. Oui, c'est révolutionnaire. Comment, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas.
La sécurité, c'est des solutions quotidiennes.
Voilà.
Toc.
Voilà. Mais d'ailleurs, la sécurité qui est tellement bien assurée qu'on retrouve, et c'est des chiffres que j'ai eus hier dans le 15e arrondissement où il y avait un comité de prévention de la délinquance et de l'analyse des causes d'insécurité, et qui montre qu'effectivement, socialistes et RPR réunis, des scores fantastiques sont atteints, puisque ne serait-ce qu'en 1989 et 90, il y a eu au niveau de des infractions à la législation sur stupéfiants quelque chose comme 24% de croissance. Ce qui veut dire que non seulement on a attrapé 24% de gens en plus ou verbalisés, mais que beaucoup d'autres n'ont pas été verbalisés. Par conséquent, les 7853 personnes arrêtées ne sont qu'une petite partie de l'iceberg, la face apparente. et avec toutes les conséquences que cela implique sur tous les autres vols, méfaits, etc. Car la drogue est souvent source de problèmes beaucoup plus graves. Et un petit chiffre, tout ça. Mais je crois que ce chiffre-là ne doit pas impressionner les responsables qui nous présentent ces chiffres-là avec un aplomb, une décontraction époustouflante. 106 morts à Paris d'overdose. 106 morts, auxquels il faudrait peut-être ajouter ceux qui sont morts du sida ou qui vont mourir du sida, etc. C'est rien. Un petit accident, quelquefois, soulève des tempêtes. Et là, on sait tranquillement que tous les mois, il y a 10 personnes qui vont mourir d'overdose, plus celles du sida, etc. Alors pour ça, effectivement, le RPR a des recettes miracles. Bon, pas la peine de mort, parce que ça c'est trop Front National, mais on va mettre effectivement des gendarmes, ou plutôt des policiers qui vont quadriller les quartiers. Mesure très bonne, très bonne. Mais j'écoutais hier une responsable d'association locale qui se plaignait du fait que dans le 15e, qui n'est pourtant pas un quartier à haut risque, c'est un quartier bourgeois, plutôt calme, plutôt bien fréquenté, eh bien, dans les écoles que contrôlait son association, qu'aidait son association, d'abord, elle indiquait qu'il y avait 70% d'étrangers, étonnant dans le 15e, quartier central et plutôt aisé de Paris, et elle indiquait également que la drogue, et surtout les drogues douces, étaient devenues quelque chose de très banalisé chez tous les jeunes. Et elle indiquait qu'elle se battait depuis des mois parce qu'elle voyait les dealers devant les écoles agir en toute impunité et avec arrogance. Et alors le représentant du préfet de police, donc du ministère de l'Intérieur, disait « Mais que pouvons-nous faire ? On ne les a pas attrapés. » Alors bien entendu, il faudrait les coincer au moment où, après dénonciation de cette brave dame, le quart de police toute sirène allumée arrive et faire que à ce moment-là ils aient beaucoup de drogue. Mais ces gens-là, quand on les identifie, on peut les suivre, on peut les pister, on peut remonter des filières, on peut effectivement s'attaquer au gros bonnet, et alors là oui, prescrire la peine de mort pour les gros trafiquants qui ma foi ne doivent pas être tranquilles jamais chez eux ni chez nous. Car c'est la mort distribuée à des enfants, à des jeunes, à nos concitoyens. Ce sont des criminels en liberté. Et on ne fait rien, parce qu'évidemment, je crois que beaucoup de nos Parisiens, de nos concitoyens, se promènent dans différents quartiers, Les Halles notamment, où n'importe quel ignare peut voir au quotidien le trafic évident de drogue. On ne fait rien. Alors, quand on dit quadriller, c'est effectivement mettre des policiers qui seront là et qui n'auront pas la possibilité d'intervenir parce que les consignes qui leur sont données sont de ne pas être agressifs ou d'être tolérants même, et qui vont de toute façon, parce que la législation et les tribunaux ne font pas leur devoir non plus, parce que les lois ne sont pas adaptées, mais qui vont relâcher le lendemain, le surlendemain, l'individu qui a été pris en flagrant délit la veille ou l'avant-veille. Et donc le problème s'amplifie, et je vais indiquer que de 1980 à 1990, donc en 10 ans, l'ensemble des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants a augmenté à Paris de 232%, c'est-à-dire 232% de plus. Voilà.
Alors, autre proposition du RPR, en retirant, pour libérer la justice, retirer au président de la République la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, et le RPR dit en faisant cela, nous rendrons toute son indépendance et son autorité à la justice. Je vous laisse 2 minutes pour rire, et puis après on reprend l'émission si vous voulez. Vous avez le droit de rigoler pendant 2 minutes.
Rire, ne me faites pas rire, j'ai la côte cassée.
En ce qui concerne... Ah oui, c'est vrai en fait,
non, mais
Victoria, ça va mieux cette côte?
Ça va.
Bon, vous êtes allé en vacances sur la côte alors. En ce qui concerne... La sécurité, je voudrais ajouter ce que disait Serge Martinez à l'instant, je voudrais ajouter une toute petite anecdote. Je connais quelqu'un qui travaille à la RATP, qui est contrôleur à la RATP, ce qui est un beau métier, parfaitement respectable et honorable, et qui m'a dit, et je n'ai aucune raison de mettre sa parole en doute, qu'il avait reçu la consigne verbale, non écrite mais verbale, lorsque surprenait lors d'un contrôle un étranger ne possédant pas de titre de transport de ne pas verbaliser, de faire simplement payer le titre de transport manquant mais de ne pas infliger d'amende. Or je rappelle que l'amende pour circulation sans titre de transport c'est quelque chose comme, c'est pas loin de 400 francs en plus du prix du titre de transport. Et bien ça, c'est valable pour le franchouillard, hein, l'abruti français moyen qui se fait piquer sans bifton dans le métro, boum, 400 balles. Si c'est un étranger ou un assimilé, on considère qu'il n'est pas savoir que besoin un ticket dans le métro, donc lui excuse pas avoir ticket dans le métro, lui pas payer amende. C'est bien. Faut savoir. Donc le truc, c'est quand vous faites arrêter, vous dites moi je parle français pas.
C'est intéressant.
Vous savez, ils peuvent croire que c'est pour peu que vous reveniez des sports d'hiver, ça peut marcher. Alors vous savez, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais depuis le début, à savoir que Jean-Marie Le Pen n'est pas docteur de l'Église. C'est l'excellent père Di Falco qui a dit ça. Quand on lui a dit Jean-Marie Le Pen est partisan du rétablissement de la peine de mort, le père Di Falco a dit oui, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas père de l'Église. On a dit ah bon, c'est pas possible, mais on croyait que ben non, justement, il n'est pas. Et Libération nous apprend aujourd'hui, sous le titre Principe, dans la rubrique Société, que l'union sacrée est faite au sein des chrétiens de France contre la peine de mort. Après un an de réflexion, catholiques, protestants et orthodoxes ont publié hier un texte dans lequel ils démontrent l'inefficacité qu'aurait un rétablissement de la guillotine. Alors, chrétiens, nous croyons que la personne criminelle dépasse toujours l'acte criminel. Ça, c'est bien du langage de curé, ça. On s'y croirait.
Moderne.
Oui, mais quand je dis langage du curé, c'est ça que ça veut dire. Autrement, je dis les prêtres, nos pères, nos abbés. Quand je dis les curés ou les curetons, c'est les conciliaires. Ça n'a rien à voir, ils ne sont pas de la famille. Alors, chrétiens, nous croyons que la personne criminelle dépasse toujours l'acte criminel. Nous ne pouvons désespérer d'un être humain au point de le supprimer purement et simplement. Comment une souffrance pourrait-elle réparer et compenser une autre souffrance? Il est prouvé que la peine de mort n'a jamais...
Je vais poser une petite question, oui, je ne suis pas tout à fait mon domaine, là.
Non, pas vraiment.
Et Jésus-Christ?
Eh bien, justement, on va en parler. Si tu me coupes mes effets, ça va
coûter. Il y a chacun son tour.
Donc, alors, comment une souffrance pourrait-elle réparer? Mais c'est vrai, en plus. C'est Martinez qui me fait remarquer ça.
C'est
incroyable qu'ils osent écrire ça. Comment une souffrance pourrait-elle réparer et compenser une autre souffrance, alors qu'effectivement, c'est tout le sens du Saint-Sacrifice.
Oui, oui.
Mais ils sont complètement tapés, ces mecs.
Et puis quand alors, ils continuent.
Il est prouvé que la peine de mort n'a jamais été une forme de dissuasion efficace. Ça, je voudrais bien savoir où ils ont trouvé cette preuve. Mais enfin, les curés disent n'importe quoi, c'est pas surprenant. Et alors, ça continue. Notre relecture actuelle du témoignage biblique et notre réflexion sur le Dieu de la vie, le Dieu de la vie, pas sur les autres, ils n'ont pas encore réfléchi. Mais en tout cas, sur le Dieu de la vie, ils ont une réflexion. Nous conduisent à rejeter fermement les pratiques antérieures. On a émis l'idée qu'enfermer un criminel dans un quartier de haute sécurité avec son crime qui le ronge peut être une chose horrible, a dit un prélat catholique, Monseigneur Villeney, évêque de Lille. Il a estimé qu'il s'agissait d'un autre débat. Vous voyez, c'est pas le sujet. Et le pasteur Stewart, président de la Fédération protestante, n'a pas caché son souhait d'aller plus loin sur cette question. L'actualité nous y poussera, dit-il. Si l'on dit non à la peine de mort, mais oui aux peines incompressibles, on n'aura pas fait de grands progrès. Il faut reconnaître qu'il a raison, le pasteur Stewart. Il vaut mieux carrément les remettre en liberté avec un pécule tout de suite. D'ailleurs, il faudrait mieux ne pas les arrêter du tout, les assassins et les criminels. S'avisant par ailleurs que la journée mondiale du sida du 1er décembre tombait un dimanche, le conseil machin truc a lancé un appel à veiller que ne se développent pas des réactions de peur et d'exclusion dont sont victimes certaines personnes atteintes. Fin du message. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à foutre avec, à voir avec la peine de mort? On ne sait pas, ou plutôt exactement, on sait très bien. Alors je voudrais pas être désagréable.
Moi je te demande la parole, oui, parce que tu n'as pas exploité complètement la réclame du rassemblement pour du revenons pour recommencer. Je me suis toujours posé la question de savoir si ces gens étaient naïfs ou s'ils prenaient nos concitoyens pour des imbéciles. Mais je crois que c'est la première des solutions qui est la bonne, parce que en plus dans leur programme pour libérer la justice, il y a une naïveté extraordinaire. Ils disent il faut, bien entendu, pour rendre la justice indépendante, eh bien retirer au président de la République la désignation des membres du Conseil supérieur. Mais ne savent-ils pas, ces gens-là, que depuis une décennie, les socialistes ont infiltré la justice, l'ont désorganisée, l'ont truffée de juges politicards et que par conséquent, en appliquant ce programme, eh bien, ils laisseront par conséquent toute leur puissance à toutes ces instances-là et ils auront par conséquent perdu tout contrôle d'une justice parfaitement et complètement socialiste qui, bien entendu, leur tombera sur le rable.
Mais si j'ose dire, Serge, c'est toi qui fais preuve de naïveté en croyant qu'ils veulent changer le système. Ils veulent pas du tout changer le système. Ils trouvent que le système est parfaitement satisfaisant comme ça. C'est pour ça qu'ils se contentent très très bien de laisser en place les gens qui sont en place aujourd'hui.
Le titre de la réclame, c'est « Si on arrêtait, le laisser faire ».
Oui, d'accord. Parce que toi, tu crois à la réclame.
Oui.
C'est ça, mais... c'est bien, Marc. Non, mais c'est la preuve d'une belle grandeur.
Oui, tout à fait.
Alors, donc pour revenir, là on fait des zigzags, mais pour revenir à cette affaire de peine de mort, je voudrais quand même rappeler, quand nos curés disent « Notre relecture actuelle du témoignage biblique et notre réflexion sur le Dieu de la vie nous conduisent à rejeter fermement les pratiques antérieures, c'est-à-dire la peine de mort », alors je voudrais pas être désagréable, mais enfin, vous savez que je lis une chose qui s'appelle « Bonum Certamen », qui est une revue polycopiée, qui est tout à fait remarquable. Alors, dans Bonum Certamen, on trouve des choses, par exemple, vous me direz, ça, c'est du vieux, tout ça c'est vieux, c'est vrai, mais par exemple, dans la Bible, hein, je sais bien, alors, dans la Bible, on lit, si quelqu'un frappe un homme à mort, qu'il soit mis à mort, voyez, mais eux, la relecture, je rappelle, notre relecture actuelle du témoignage biblique et notre réflexion sur le Dieu de la vie nous conduisent, disent les curés, à rejeter fermement les pratiques antérieures, c'est-à-dire la peine de mort. Alors donc, la Bible, quand vous lisez la Bible, hein, premier truc, vous lisez la Bible. La Bible vous dit, si quelqu'un frappe un homme à mort, qu'il soit mis à mort. Bon. Quand vous relisez la Bible, relecture biblique, ça s'appelle relecture. Vous, qu'est-ce que vous relisez? Vous relisez, si quelqu'un frappe un homme à mort, qu'il soit mis à mort. Ok? Vous voyez la différence? Non, elle voit pas la différence. Elle est décidément pas très développée du côté du bulbe, cette femme-là.
Oh là là.
Bon, je vous donne un autre exemple. La première lecture. C'est dans la Bible aussi. Si quelqu'un tue son prochain, vous l'arracherez même à son autel. Autel, A-U-T-E-L, hein, pas... Non, mais je précise parce que... Vous l'arracherez même à son autel pour le faire mourir. Ça, c'est la première lecture. Donc, vous lisez ça, vous dites, si quelqu'un tue son prochain, vous l'arracherez même à son autel pour le faire mourir. Relecture biblique, façon curé de gauche. Si quelqu'un tue son prochain, vous l'arracherez même à son autel pour le faire mourir. Mais donc, c'est pas du tout la même chose. On comprend qu'à partir de là, il commence à s'interroger en disant, mais oui, c'est vrai, on ne peut plus... on ne peut que rejeter fermement les pratiques anciennes.
Je vais t'en citer une autre comme ça, mais qui n'a rien à voir avec la religion, mais je vais te lire quelque chose qui... Allez, on va le dater pour commencer de 1988, et le texte serait celui-ci. Le moyen de lutte le plus efficace contre le sida reste la prévention, et en ce domaine, le dépistage est essentiel. Et on le signerait Jean-Marie Le Pen.
Oui, c'est Le Pen qui
dit ça. Ce serait un scandale absolu.
Oui.
Alors supposons qu'on le date du mardi 26 novembre 1991, que ça paraisse dans le Figaro, c'est-à-dire d'avant-hier, donc, non d'hier, pardon, et que cette même phrase, le moyen de lutte le plus efficace contre le sida reste la prévention, et en ce domaine, le dépistage est essentiel, et qu'on le signe Bruno Durieux, ministre socialiste.
Donc ça devient bien.
Ça devient très bien.
Absolument. Alors, donc sur la peine de mort aussi, il y a pour continuer, par exemple, Saint Paul. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains 13, 3 et 4, dit « Le prince est le ministre de Dieu, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est ministre de Dieu pour exécuter la sentence à l'égard de celui qui fit le mal. » Donc, première lecture, on a l'impression que c'est pour la peine de mort. Deuxième lecture, c'est évident que c'est le contraire. Alors, Saint Louis, on va en parler tout à l'heure, enfin, on va parler de sa maman tout à l'heure, qui était Blanche de Castille. On va en parler avec Madame la Comtesse de Paris. Eh bien, Saint Louis, il avait fait une loi qui était... quand même, on voyait, c'est des gens qui avaient un certain sens des mots. Tout criminel sera pendu, point. On peut pas dire que ce soit très compliqué à comprendre. Même Victoria, du premier coup, s'est percutée.
Voilà, c'est ça.
Le Concile de Latran dit, nous affirmons que le pouvoir séculier peut s'empêcher appliquer la peine de mort au nom de la justice. Saint Thomas d'Aquin, qui lui est père de l'Église, contrairement à Le Pen, qui ne l'est pas, puisqu'il nous a dit le père de Falco, qui n'est pas du tout d'ailleurs non plus le père de l'Église,
lui,
le père de
Falco.
Il est père, mais pas de l'Église. Alors, Saint Thomas d'Aquin, dit « La vie de certains individus dangereux met un obstacle au bien commun. On doit les faire disparaître par la mort. » C'est saint Thomas d'Aquin, le pasteur angélique, qui dit ça, vous voyez. Le pape Pie XII, qui était pas mal non plus dans son genre, il dit « Il est réservé au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie en expiation de sa faute et parce que son crime l'a dépossédé de ce bien de la vie. » Et le même pape, 2 ans plus tard, en 54, dit « Le châtiment capital, loin d'être un acte de vengeance, est essentiellement réparation de l'ordre divin que le criminel a violé. » Oui, docteur de l'Église, pas père de l'Église.
Pense sur le Beckett.
Oh là là. Non, mais ça, c'est le Varlet, il est insupportable. Le pape Sixte Quint, qui devant la criminalité qui sévissait à Rome.
Mais tu n'es pas branché.
Je suis pas branché.
Tu n'es pas branché.
Enfin, quand même, lui, il avait réglé la criminalité, il avait transformé le pont Saint-Ange.
Comme notre ministre Langue, je ne sais pas si vous l'avez informé, j'ai écouté ça, Jack. L'information tout à l'heure. Vous savez que ce grand artiste, Barrault, dirigeait un théâtre. Il a été révoqué.
Moi, personnellement, je ne vais jamais au théâtre, alors ça me laisse absolument de marbre.
Ah bah oui, mais quand même.
Vous ne trouvez pas le théâtre est une chose extraordinairement ennuyeuse?
Non, non, moi j'aime beaucoup le théâtre, mais pas celui
C'est une nouvelle lecture. C'est une nouvelle lecture.
La nouvelle lecture, non, moi je suis pas.
Voilà les nouvelles que je voulais vous donner. Donc, il faut savoir que les pères de l'Église et les docteurs de l'Église... sont maintenant nuls et non avenus. C'est le père Di Falco, qui est père, mais pas de l'Église, et qui n'est même pas docteur, d'ailleurs, qui nous le fait savoir. Alors, il faut être au courant, il faut savoir tout ça. D'autres informations plus tard. Maintenant, nous allons recevoir...
Et savoir surtout que Jésus-Christ s'est sacrifié en vain.
Oui, en vain, absolument. Ça, c'est absolument clair. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande vraiment si c'est pas vainement. On va donc écouter un tout petit bout de musique, et puis on va recevoir les représentants de la manufacture des Gobelins qui vont nous expliquer pourquoi on les expatrie de cette façon-là. Ça s'appelle « Le Père la Victoire », ce morceau. C'est tiré de l'anthologie de la musique pour harmonie. Marche de circonstance. Effectivement, c'est une marche de circonstance. « Le Père la Victoire » de Louis Gann, 1886. Alors j'espère que cette musique augurera de la victoire des artistes lycéens qui sont autour de ces micros, puisque nous allons évoquer une affaire qui fait grand bruit, qui est le transfert de diverses administrations et institutions parisiennes, mais nous allons l'évoquer à travers un exemple précis, qui est l'exemple de la manufacture des Gobelins. Et j'ai autour de cette table 3 artistes lycéens. On va tout de suite leur demander de quoi il s'agit, parce que en fait on ne le sait pas. Enfin, moi personnellement, je ne le sais pas. Il s'agit de Catherine Bartolozzi, de Catherine Gourdin et de Monsieur Loison, dont je n'ai pas noté le prénom, bien entendu.
Michel
Loison. Il faut que vous parliez, s'il vous plaît, bien dans le micro, parce que nous avons un équipement qui n'est pas digne de nous, et de vous non plus, d'ailleurs, par sa vétusté et sa rusticité. Alors, Catherine Bertolozzi, vous pourriez peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le métier d'artiste lissier.
Le métier d'artiste lissier, enfin, dis-moi, moi je travaille dans l'atelier de savonnerie, donc qui est l'atelier de tapis. Et je pratique un peu le tissage de tapis d'après des peintres contemporains.
C'est-à-dire que vous faites du tissage voilà, du tissage. D'un dessin qui vous est soumis, et vous travaillez à plat ou en hauteur? Comment ça
le métier est de haute lisse.
C'est haute lisse, c'est-à-dire voilà, c'est en hauteur.
Vertical.
Voilà. Bien. Alors, Michel Loison, la raison pour laquelle vous êtes venu ce soir, je précise que votre présence ici n'est pas une présence politique, c'est vous êtes des artistes, vous venez nous expliquer quel problème va poser non seulement aux artistes que vous êtes, mais à l'ensemble cette famille qui travaille autour des Gobelins et pour les Gobelins, et même au quartier des Gobelins, le départ décidé par le pouvoir de la manufacture, départ pour la province. Mais je précise toujours, quand c'est le cas, que la présence des invités ne signifie pas du tout que ces invités sont de près ou de loin, peu ou prou, engagés dans une activité politique quelconque. Il s'agit d'expliquer une affaire liée à l'actualité. Alors, quel problème exactement se pose aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la manufacture des Gobelins en deux mots et quelle décision a été prise en ce qui concerne cette manufacture?
Je crois que la manufacture des Gobelins, d'abord, il faut la situer, parce que la manufacture des Gobelins, c'est avant tout des métiers de haute et basse lisse et d'une technique particulière qui est la savonnerie, comme évoquait tout à l'heure ma collègue, et qui est le tapis de sol. D'autre part, notre présence ici ce soir, vous faites bien de le rappeler, nous sommes dans une campagne de médiatique où nous informons toutes les radios, tous les médias qui veulent se sensibiliser au problème qui est aujourd'hui la délocalisation de la manufacture des Gobelins et des restauratrices du mobilier national. Parce que je crois trop souvent on les oublie et elles font partie du même métier que nous. Nous sommes tous rattachés les uns aux autres. L'un ne peut pas exercer dans un endroit sans l'autre. Et c'est pour ça que il est très important de le souligner, parce que à l'heure actuelle, on serait presque à comprendre qu'on voudrait nous faire croire, l'administration, que bah, peut-être certains sont moins bons que les autres et qu'on pourrait peut-être jouer à pile ou face ceux qui vont partir ou pas.
Alors, pardon de vous poser une question, vous interrompre, mais vous parlez des restauratrices. C'est-à-dire que vous voulez dire par là qu'il y a deux activités principales au Gobelin. C'est d'une part la fabrication, la réalisation de nouveaux tapis, de nouvelles œuvres, et d'autre part l'entretien et la réparation des œuvres anciennes.
Ou contemporaines. Ou contemporaines.
C'est ça.
Oui, c'est tout à
donc
fait
il y a
ça.
En réalité, deux fonctions qui ne sont pas interchangeables. Artiste de haute lisse n'est pas un restaurateur, et un restaurateur n'est pas...
Exactement. Bien. Les deux ont des fonctions bien déterminées, mais qui fait qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres et que nous avons besoin de chacun. Et d'autre part, encore un autre atelier qui vient se greffer sur l'ensemble, qui est l'atelier de teinture, qui est le cœur de notre activité. Sans elle non plus, on ne peut pas travailler.
Et donc, le Premier ministre a déclaré il y a quelques semaines maintenant que cette manufacture allait être expropriée, allait être en quelque sorte... Alors, vous avez employé un mot qui est délocalisé, qui est un mot du vocabulaire administratif, qui d'ailleurs me paraît un mot qui est propre au vocabulaire de la désinformation, parce que, évidemment, déjà, quand vous dites expropriée ou expatriée, on peut considérer que 45 à 50% des Français ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit, étant donné qu'on sait que le vocabulaire de nos contemporains tourne autour de 400 mots. Et quand on dit délocalisé, alors là, on atteint le chiffre probable de 85% des gens qui disent délocalisé, ça doit être quelque chose de très bien, parce que local, c'est misérable, c'est petit. Donc délocalisé, ça doit être quelque chose de formidable. Alors, quelle est la réalité de ce mot?
On peut répondre à ce mot tout à fait simplement. C'est que c'est l'envers de la décentralisation. La décentralisation, c'est tout le monde qui part. Une entreprise peut être décentralisée, elle part avec le PDG jusqu'à la maintenance, enfin. Que délocalisation, c'est que l'on prend une partie des gens, c'est-à-dire les producteurs, en l'occurrence pour les manufactures et les restauratrices, mais l'administration reste en place.
C'est-à-dire qu'on va donc expatrier, enfin on va faire sortir de Paris pour les emmener dans un endroit qu'on définira tout à l'heure, qu'on indiquera tout à l'heure, si tant est que vous le sachiez d'ailleurs, les gens qui sont les travailleurs qui travaillent sur le produit, qui sont, vous nous avez dit, les artistes lissiers et les restaurateurs ou restauratrices, ceux-là on va les envoyer en province, mais tous les fonctionnaires, les bureaucrates, les ronds de cuir vont rester à Paris.
Ah, tout à fait.
Alors déjà, là on est en présence d'un premier mensonge, c'est-à-dire qu'on nous dit il s'agit de décentraliser l'administration qui est par trop jacobine, qui est par trop parisienne. Donc il s'agit d'expatrier l'ENA, d'envoyer l'ENA à Strasbourg, d'envoyer tel autre, la régie des tabacs, je ne sais où, à Angoulême ou peu importe. Mais dans votre cas, ça n'est pas vrai, puisqu'il s'agit d'envoyer les travailleurs, les producteurs,
Les manufactures et du mobilier national, voilà, en province.
Et puis, et de garder à Paris les comptables, les aides-comptables, les commis aux écritures, etc.
Tout à fait. C'est ça. Pour notre cas.
Catherine Gourdin, est-ce que vous pouvez nous faire un historique de la manufacture ?
Un très bref historique. Oui, les manufactures sont en place depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis 1662. Le terrain avait été acheté par Colbert, qui par la suite a été...
Alors, ce terrain se trouve où exactement ?
Dans le 13e, dans le quartier des Gobelins, c'est
oui,
sûr.
Ça, y a une là, jusqu'à présent, il y a une certaine logique.
C'est une certaine logique, oui. Entre la place d'Italie et le carrefour des Gobelins.
Ça occupe quel territoire ? Quelle superficie à peu près ? Vous en avez une idée ?
2,5 hectares.
2,5 hectares au cœur d'un quartier qui est en plein développement dans Paris.
Alors là, je voudrais faire un aparté quand même. Depuis quelques jours, on sait que l'ensemble de l'enclos des Gobelins est inscrit sur l'inventaire.
Des sites.
Des sites.
C'est-à-dire que même si vous partez, on ne pourra pas détruire les bâtiments qui sont là, puisqu'ils sont classés, ils sont inscrits.
À ce que l'on sait, là je serais très prudent, lorsque l'on inscrit quelque chose sur le livre, comme je disais tout à l'heure, on peut retirer tout l'ensemble, garder uniquement les murs et faire tout à fait autre chose. On peut refaire... Bon, alors, ça serait pas tout à fait. Hier, nous avons eu un contact avec notre administration qui nous dit qu'un autre grand centre culturel serait lancé à notre place. Et nous partons du principe que nous sommes déjà un site culturel connu mondialement et qu'on ne comprend pas notre déménagement.
Quel est le nombre, Catherine Gourdin, des personnels qui sont concernés par cette décision, tout compris ?
120 personnes.
120 personnes. Alors, on a vu tout à l'heure ce qu'était, très brièvement, ce qu'était un artiste lissier. C'est donc quelqu'un qui fabrique pratiquement une savonnerie ou un tapis à partir d'un plan, une tapisserie, pardon. Vous m'arrêtez quand je dis une bêtise, faut pas hésiter. Une tapisserie, à partir d'un plan en travaillant sur un métier de haute liste, c'est-à-dire un métier vertical. Mais ça, c'est sa fonction. Maintenant, quelle est sa formation ? Comment devient-on artiste lissier ?
Ben, nous avons une formation qui dure environ 7 ans. Une formation technique, c'est-à-dire pratique dans la section dans laquelle on travaille, plus une formation d'histoire de l'art, une formation de dessin. En fait, une formation très complète.
Mais cette formation se fait à Paris ?
Elle se fait sur les lieux mêmes.
Sur les lieux mêmes, oui. C'est-à-dire, vous avez fait les Beaux-Arts avant et c'est supplément
absolument
ou...
absolument.
Alors, quelle est la formation précédente ? À quel âge entre-t-on au Gobelin pour apprendre le métier d'artiste lycéen ?
Disons en fin de scolarité.
C'est-à-dire à l'époque du bac, à peu près non, ou,
tout à fait.
16-17 ans,
oui.
J'imagine.
À l'heure actuelle, nous recrutons sur la base du bac et nous avons des projets de concours qui nous amèneront à recruter à bac plus 2.
Et quels sont les critères de recrutement ? J'imagine qu'il doit y avoir quand même une certaine sensibilité artistique.
Voilà, tout à fait. Il y a une sensibilité artistique, il y a le goût, il y a aussi l'aventure à prendre. Parce que lorsque l'on devient artiste lissier, enfin qu'on a envie de devenir artiste lissier, on ne le fait pas uniquement pour l'argent. Parce que je tiens à dire là que le salaire moyen est de 6 400 francs pour un artiste.
Ah oui, c'est bien ça. J'espère que vous n'abusez pas quand même, pas les boîtes de nuit, Montmartre, tout ça, pas trop quand même.
On connaît pas.
Il faut faire attention. Non, mais chez les artistes, il y a quand même une grande conseil. On sait ce que c'est qu'un artiste, ça boit du champagne, ça sort avec les filles et tout. Donc avec 6000 francs par mois, quand même, il faut faire très attention. La bouteille de champagne, pas plus d'une tous les 6 mois. Hein. Et encore, à condition de la partager à 4. Oui, vous êtes fonctionnaire, quel est votre statut ?
Alors nous avons le statut de fonctionnaire, tout à fait. Ce qui nous différencie un peu des autres délocalisés.
Vous tenez absolument à ce mot-là. Ça, délocaliser, ça vous plaît. Ça.
C'est le terme administratif.
C'est le terme. Oui.
Non, mais c'est un, je reproche à ce mot de dissimuler la réalité, tout simplement. On vous chasse de Paris. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle cette décision a été prise ?
Écoutez, monsieur Jacques Toubon, le maire et député du 13e, a posé la question à l'Assemblée. Plusieurs fois, il attend encore la réponse. Et nous, de même, nous attendons toujours la réponse. Bon, et hier soir, nous avons demandé à notre administration, en l'occurrence le CNAP, le Centre National d'Art Plastique qui nous gère, à monsieur Barré, qui en est le directeur, de nous coucher noir sur blanc la problématique qui amenait, pourquoi on avait été choisi et quelles propositions il faisait.
Parce que, on me parle là de l'école d'Alfort. Alors, je ne sais pas ce que on me dit. Pourquoi l'école d'Alfort va-t-elle être déplacée, elle aussi ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous avez une idée de ce qu'est l'école d'Alfort ?
Peut-être les vétérinaires.
C'est les vétérinaires.
C'est ça, c'est l'école. C'est Maison Alfort.
Voilà.
Maison
Alfort. Non, mais nous les connaissons bien. Lors de notre manifestation de la semaine dernière, ils étaient derrière nous. Et d'ailleurs, ils étaient venus gentiment manifester avec nous, avec leurs chiens. C'était très agréable à voir.
Vous n'avez pas profité pour tondre les chiens, pour faire du... Non, ça aurait été amusant, parce que c'était une question. Non, c'est une question idiote. Oui, vous la trouvez idiote. Vous avez... Alors, revenons-en maintenant au problème propre du déménagement des Gobelins. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez 120. Est-ce que, si on peut se poser la question, de savoir si le déménagement de 120 personnes est de nature à bouleverser le tissu parisien, enfin le tissu de urbanique ou urbanistique parisien.
Ce n'est pas le tissu urbain que l'on va défaire, c'est le nôtre. C'est-à-dire que par cette politique menée, il y a un démantèlement, une structure complète de Paris, des métiers d'art qui va disparaître. C'est un éclatement. Il faut vous dire qu'il y a aussi un problème familial. L'ensemble des gens, on annonce 120, mais à l'heure actuelle, sur les sondages que nous faisons, 95% du personnel ne pourra pas suivre.
Voilà. Pourquoi ?
D'où cassure. Pourquoi ?
Attendez, d'abord, première question, où veut-on vous envoyer ?
Alors, il y a deux sites choisis, l'un est au Buisson, l'autre Beauvais.
C'est-à-dire, au Buisson, c'est quoi par rapport à Paris ?
Aubusson, c'est une ville de province qui est charmante.
C'est à 800 kilomètres, c'est à...
4 ou 500 kilomètres, je mettrais plutôt 400 que 500, oui, 400 kilomètres. Aubusson, pourquoi choisir Aubusson ? Parce que à Aubusson, il y a, c'est vrai, des artistes, enfin des lyciers, mais eux qui sont des lyciers privés, qui travaillent pour un patron. Et là, d'ailleurs, c'est des gens qui font un travail admirable, qui travaillent avec une technique qu'ils possèdent bien, d'ailleurs. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a une différence avec nous, c'est que eux travaillent contre le temps, c'est-à-dire que pour manger, il faut qu'ils produisent des mètres carrés, et nous travaillons avec le temps, c'est-à-dire que nous produisons aussi, mais nous avons le temps de faire un travail parfait. Ce qui est une grande différence. Et là, à l'heure actuelle, on tenterait à nous mettre en disant que Aubusson c'est formidable et que nous disons non. Les Aubussonnais à Aubusson, très bien. Nous, en tant que manufacture des Gobelins, nous restons aux Gobelins et pas ailleurs.
Et l'autre site qui est proposé, c'est
Beauvais. Alors, Beauvais, mais il y a quelque chose de...
À cause de la tapisserie, bien entendu.
Aussi. Bon, Beauvais a été bombardé en 39, donc les balissiers reviennent rejoindre la manufacture en 40. Bon, et en 88, il a été décidé la reconstruction de la manufacture de Beauvais. Et ce qui a été fait, sur la base du volontariat, les gens sont retournés travailler dans la nouvelle manufacture qui se situe à Beauvais. Alors, donc aujourd'hui, reste aux Gobelins, et c'est là où il y a quelque chose que nous ne sommes pas d'accord, reste aux Gobelins des métiers de basse lisse et de haute lisse, comprenant la savonnerie. Et par derrière, dans le mobilier national, les restauratrices qu'on a tout à l'heure évoquées et qu'on a décrites.
Bon, vous nous disiez à l'instant que sur les 120 personnes qui sont concernées par cette décision d'expatriement ou d'expropriation, 90 ou 95% ne suivraient pas le déménagement. Alors, quelles sont les raisons de ce rejet ?
Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a de la vigne. Et en 63, quand je décide de faire une carrière plus ou moins artistique, parce que j'avais passé un concours à l'école Estienne, et c'est pour ça que je rentre au Gobelins plus tard, parce que je passe un concours, je viens voir les résultats, je passe par l'avenue des Gobelins, je pose des questions, je rencontre quelqu'un de merveilleux qui me fait toute l'histoire de la manufacture, et au lieu de rentrer à Estienne, je viens au Gobelins. Donc, c'est un engagement, mais je viens de province. Et aujourd'hui, j'ai formé personnellement ma famille à Paris. Mon épouse travaille à Paris, a un emploi bien déterminé. Si je pars et qu'elle me suit, elle n'a plus de travail. Et mon fils, qui est aujourd'hui entame des études, eh bien, c'est vrai qu'en province aussi, on peut trouver des lycées, etc. Mais lui, il a ses amis, etc. Il n'a plus envie de partir. Il le fera peut-être plus tard, quand il aura fait un choix de travail, etc. Mais pour l'instant, son tissu est à Paris.
Catherine Bartolozzi, c'est la même chose pour vous ? Vous avez...
Oui.
Bah, je ne vous pose pas la question à titre personnel, parce que votre problème personnel n'est pas en cause, mais en général, donc, les raisons pour lesquelles les artistes ici ne veulent pas s'expatrier, c'est qu'ils sont... complètement intégrés dans la vie parisienne et qui n'ont pas envie de...
Oui, dans la vie parisienne. Et puis, de toute façon, je veux dire, les Gobelins appartiennent au 13e. C'est l'histoire même du 13e. C'est un patrimoine culturel et artistique de Paris qui s'en va. Et ça, c'est grave. Mmh. Je veux dire, les métiers d'art sont en danger. Je veux dire, c'est sûr qu'en province, on peut faire de la tapisserie. On n'est pas contre ça, nous. Mais c'est que les Gobelins appartiennent aux Gobelins. Je veux dire, on fait partie de cette histoire-là, et puis voilà.
Alors justement,
l'intérêt, je veux dire, toute cette politique culturelle qu'il y a à Paris, je veux dire, on ne l'a pas non plus en province. Il faut dire aussi les choses qu'on a. On a une formation d'histoire de l'art et de dessin. Je veux dire, on a fait toute notre formation à Paris, à l'intérieur, formation technique à l'intérieur des ateliers, qui est vraiment bon, une très bonne formation, et culturelle à Paris. Je veux dire, c'est sûr que bon, les expositions, toutes les manifestations qu'il y a culturelles à Paris. Bon, je veux dire, on ne pense pas les trouver en province non plus.
Quel échange avez-vous avec le quartier, avec l'environnement des Gobelins ? Est-ce qu'il se passe des choses dans ce quartier qui sont liées à la présence de la manufacture ?
Bien, écoutez, là, dans le cadre de nos actions, nous avons lancé une porte ouverte qui s'est déroulée donc le week-end dernier.
Oui, d'ailleurs, des auditeurs nous appellent pour en parler.
Le 23 et 24 novembre, donc le week-end dernier. Je vous signale que nous avons fait plus de 7000 entrées. Et les gens, c'est vrai, certains reconnaissent, nous dire, bon, ben, on ne connaissait pas la manufacture des Gobelins. Et nous avons démontré à notre administration, nous avons fait, nous, une opération médiatique. On a fait de la promotion des manufactures des Gobelins. Ce que, depuis 10 ans, le CNAP, notre Centre National des Arts Plastiques, n'a jamais fait.
Pourquoi ?
Ça serait à vous de leur poser la question. Ouais. Moi, je ne veux pas tomber dans ce registre, parce qu'il ne faut pas non plus dire que tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait les choses mal. Mais au niveau des manufactures, ils n'ont rien fait. Et c'est nous, aujourd'hui, par nos actions, qui montrons la manufacture des Gobelins. Et du mobilier national aussi, parce que le mobilier est méconnu aussi. Bon, il a un registre, lui, très important, il s'occupe de l'Élysée, etc., mais il était méconnu. Et les gens nous demandent, n'arrêtent pas de... Enfin, lors de ces portes ouvertes, nous demandaient quand est-ce qu'on allait recommencer. Et il faut comprendre quand même, et s'il y en a quelques-uns qui m'écoutent ce soir...
Il y en a quelques-uns.
Que l'organisation d'une porte ouverte ne se fait pas n'importe comment, et que s'il le faut, nous en recommencerons une, ou alors on fait le pari. Qu'est-ce qu'attend demain notre administration pour en organiser une du même type et de la même ampleur?
Alors, une auditrice, justement, au téléphone en disant j'étais à l'opération porte ouverte, j'ai signé, votre personnel d'accueil était très agréable. Avez-vous obtenu beaucoup de signatures dimanche?
Énormément. Nous avons obtenu de lettres au ministre plus de 2000, le chiffre? Oui, c'est à peu près environ 2000. Lettres qui vont être adressées au ministre, Nous étions à 15 000 signatures avant les portes ouvertes. Nous en avons plus de 20 000. Il suffit de faire la soustraction pour voir ce que nous avons obtenu comme signature ce week-end.
Alors Georges Mathieu, sur cette antenne même, a parlé il y a quelques jours de crime contre le patrimoine et de crime contre les hommes, ce qui est un terme qui n'est pas exagéré, me semble-t-il. Et une auditrice qui est au moins quelqu'un de prévoyant nous dit « J'aimerais savoir comment il faudra faire pour obtenir un logement social aux Gobelins. Ça sera certainement très agréable. Je pense effectivement qu'une fois que vous serez parti et qu'on remplacera votre présence par des logements... Vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas que c'est pour faire du logement social?
Non, non, bon, non, je ne tomberai pas dans ce registre, non.
Vous n'avez pas confiance dans l'avenir? Bon, eh bien, écoutez. Alors, maintenant, des questions. Moi, je sais pas. Moi, je pensais que, de toute bonne foi, c'était pour construire des logements sociaux qui voulaient vous chasser. Vous croyez quand même pas que c'est pour le pouvoir va faire une opération immobilière sur 2,5 hectares de terre belle et bonne.
Je voudrais intervenir à ce sujet parce qu'il y a quelque chose où j'ai mal précisé tout à l'heure. Je pense pas qu'on va s'attaquer à l'enclos des Gobelins. On y fera sûrement autre chose. Il n'y aura plus d'artistes lissiers dans les manufactures, mais on s'attaquera pas. Par contre, on sait où ils sont en train de vouloir mettre main basse, c'est sur la nouvelle manufacture, c'est-à-dire sur un immeuble qui a été construit, enfin qui a été décidé sous Malraux, qui a été mis en œuvre par Duhamel, et où nous avons commencé à occuper, de termes tout à fait normal, en 69, où nous avons habité cette partie, cette aile nouvelle, qui normalement devait avoir une extension, et qui n'a pas eu lieu, ça encore on ne sait pas pourquoi.
C'est à quel endroit, ça, alors?
Ça, c'est juste derrière la rue Berbier du Metz, au 3 de la rue Berbier du Metz, calé entre la manufacture et le mobilier national.
C'est une belle adresse, ça. Dans Paris, on peut faire des choses intéressantes. On pourrait construire des choses, je sais pas, enfin des...
Écoutez, il y a des bruits qui courent. Sociaux. Il y a des bruits qui courent, mais je voudrais pas me faire le porteur ce soir de...
Non, mais vous pourriez au moins le faire courir dans ce studio.
Il y a grave danger, et c'est pour ça que notre présence ce soir est là, c'est d'appeler l'ensemble de la population. Nous allons organiser, nous mettons sur pied une manifestation qui va appeler l'ensemble de la population parisienne à venir nous soutenir et à soutenir leur patrimoine. Parce que ce qui est grave, c'est que 2 ans après le patrimoine, on s'attaque à la manufacture des Gobelins et au mobilier national. Et par ce jeu de délocalisation, on va mettre en péril un nombre de métiers qui disparaîtront à jamais. Parce qu'il faut savoir que nos maisons, nous transmettons un savoir-faire de bouche à oreille. Ce qui est aussi important.
Alors, Catherine Gourdin, un auditeur nous dit, tout à l'heure, je crois que c'est Michel Loison nous disait que on recevait les artistes lycéens débutants à partir de l'âge du bac ou à partir des... On envisageait de les recevoir à partir de bac plus 2.
Tout à fait, oui.
Mais un auditeur nous dit, alors fort justement, je trouve que sa remarque est frappée au coin du bon sens, ça veut dire que vous n'admettez pas d'apprentis de 16 ans par exemple, n'est-il pas plus important d'assurer la formation de jeunes apprentis que de s'occuper des questions de déménagement, etc. Comment, alors, la question c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'apprentis artistes lycéens? Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'au bac et 2 ans après le bac pour apprendre ce métier?
Alors écoutez, là vous avez ce que j'appellerais une question un peu vicieuse parce que il faut... Tout à l'heure je vous ai répondu tout à l'heure que le salaire moyen c'était 6400 francs. L'administration ne reconnaît que les diplômes. Pour avoir un salaire décent, il faut donc avoir des diplômes.
Parce que 6400 francs, vous appelez ça un salaire décent?
Non, non, mais on pense qu'avec des diplômes supplémentaires, les gens seront donc recrutés à des niveaux supplémentaires.
Ouais.
Donc vous connaissez le jeu de l'administration, c'est-à-dire la fonction publique, C, D, B, enfin C, B et A. Bon, pour avoir accédé à ces niveaux, il faut des diplômes. Sans diplôme, on n'est rien. Et c'est ce qu'on nous a reproché très longtemps.
Oui. Et après, on s'étonne d'avoir effectivement 3 millions de chômeurs et des jeunes qui ne savent rien faire et qui considèrent que les métiers manuels sont l'abomination de la désolation. Effectivement, si on commence par les enfermer dans des lycées jusqu'à 18-19 ans, parce que naturellement, ils triplent ou quadruplent, et qu'à 19 ans, on leur dit « bon, ça y est, maintenant, t'as le bac, encore 2 ans de patience et tu pourras apprendre un métier où tu vas gagner 6 000 francs par mois », je pense qu'il a tout de suite intérêt à aller s'inscrire à la NPE et à se mettre à son compte. Non, vous n'avez pas l'impression ? Vous croyez pas que une action dans ce sens, une action dans le sens de la restauration de l'image du métier manuel d'art, comme ceux que vous pratiquez.
De ce problème, car en fait c'est la politique de l'administration, la politique salariale. Il est évident qu'un artiste de génie sans diplôme ne serait pas payé ou gagnerait des clopinettes, alors qu'un polytechnicien mauvais artiste pour faire cette activité aurait un salaire décent qui lui permettrait de vivre. Je crois que l'aberration est là, et donc pour assurer un niveau de vie même à peine décent à leurs futurs employés, je crois qu'il y a de la part de ces gens la volonté de faire en sorte qu'ils se coincent ou qu'ils se placent dans la grille des salaires à un niveau acceptable pour qu'ils puissent manger en travaillant.
Je comprends. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette occasion formidable qui vous est donnée de vous mobiliser autour d'une question qui est la question de votre expulsion de Paris, c'est peut-être aussi l'occasion de développer un nouveau discours. C'est la première fois que vous médiatisez votre existence, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que c'est la première fois que vous devenez, qu'on parle de vous. Beaucoup de gens, je suis absolument certain, que beaucoup de Parisiens pensaient que les Gobelins avaient disparu depuis longtemps, que les Gobelins c'était un quartier de Paris dans lequel il se passait plus rien de relatif à la tapisserie. Je veux dire que moi-même, jusqu'il y a quelques années, où j'ai découvert tout à fait par hasard la manufacture, je pensais que la manufacture des Gobelins n'existait plus, et qu'on ne fabriquait plus de savonnerie, ni de tapisserie, ni rien, que tout ça était abandonné. Donc beaucoup de gens croient ça. L'histoire de votre expulsion vous fait, en quelque sorte, vous propulse sur le devant de l'actualité. Je me demande si c'est pas l'occasion d'en profiter pour montrer ce que c'est qu'un métier d'art en France. Moi, je suis abasourdi par ce que vous nous apprenez. 6000 francs et des poussières pour des gens qui font le métier que vous faites, c'est absolument incroyable. C'est un sacerdoce, c'est pas un métier.
Alors, il y aurait quelqu'un de l'administration qui serait là, dirait qu'ils se sont occupés de ce projet, parce qu'ils viennent, ils nous sortent au 1er janvier 92 un nouveau statut, nous changeons de statut, qui s'appellera le statut des métiers d'art. Où là, on n'a pas fait grand chose, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'est occupé à remonter les bas salaires, mais de très peu, et que l'on a calé la hiérarchie à un certain niveau. Il y a que ceux qui sont en A qui éclatent, les autres sont bloqués.
Alors, il y a une autre question qui nous emmènerait sans doute très très loin, mais je vais quand même vous la transmettre. C'est une question de Jean-Pierre Guy de Poitou, qui est un artiste dont j'ai pu apprécier plus que le talent, le génie, et qui nous dit: depuis 20 ans, la politique imposée aux Gobelins, c'est le choix de l'art informel. Les lyciers sont désespérés de faire 7 ans d'études pour remplir de grandes surfaces sans forme. Alors, on peut parler de ça? Vous osez en parler?
Moi, non, j'irai pas jusque là, parce que dans chaque carton donné, il y a toujours une âme à trouver. Donc, il y a de l'expression pour nous. C'est sûr que si c'est une toile sans fond, blanche, comme Mondrian a fait à une époque, bon, il n'y a plus rien. Quoique encore, on peut y trouver peut-être une âme. J'aurai pas le même registre que ce monsieur. Parce que la qualité fait que nous arrivons toujours à trouver quelque chose.
Oui, c'est vrai que quand vous...
Il n'y a pas de mauvais cartonnier, il n'y a pas... Non, je ne tomberai pas dans ce registre. Dans tout ce qui a été sorti des manufactures ou du mobilier national, je le tiens encore à le dire, parce qu'il n'y a pas que le tissage, il y a des choses merveilleuses qui sont faites à travers le mobilier aussi. On se pose chez nous toujours des questions, ce que d'autres peut-être dans le privé ne peuvent pas faire.
Alors vous nous disiez tout à l'heure, c'est un peu décousu, mais je pose les questions comme elles arrivent, les questions des auditeurs comme elles arrivent. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des bruits qui couraient sur la destination éventuelle de certains sites.
Oui.
Vous n'avez pas voulu faire courir ce bruit dans ce studio, mais une auditrice nous dit, on parle d'une construction qui serait réservée aux musulmans. Alors, est-ce que ce serait une extension de l'institut?
Non.
Est-ce que ce serait une mosquée?
Non, c'est aberrant.
C'est aberrant. Ça n'est pas les bruits que vous avez.
Non, c'est aberrant.
Donc, c'est pas pour les musulmans qu'on vous chasse.
Je tomberai pas dans ce registre.
Ah ben, c'est pas une question de registre, c'est une question. Vous savez, c'est une question qui est posée. Il s'agit de savoir pourquoi on veut absolument que vous quittiez les Gobelins. Et c'est intéressant de le savoir. Il y a peut-être de très bonnes raisons, après tout.
Si ah, mais non, si nous sommes là, c'est pour dire qu'il n'y a pas de bonnes raisons, mais...
Mais quelles sont les mauvaises raisons? C'est ça qui serait intéressant peut-être de dire. Non, vous n'y tenez pas. Décidément, vous voulez pas nous dire pourquoi on veut vous chasser des gobelins.
Mais on le sait pas. Je vous dis, le maire, notre député a posé les questions. Il n'y a pas de réponse. On les attend. Donc je veux pas tomber dans un registre qui est des suppositions pures et simples.
Quels moyens avez-vous de résister à cette expulsion? Parce qu'un auditeur, une auditrice dit, il faut que nous fassions la grève des impôts locaux pour empêcher cette expulsion des gobelins.
Non, pas la grève des impôts locaux.
Je signale d'ailleurs qu'on n'a pas le droit d'appeler à la grève des impôts, c'est un délit, donc je n'appelle pas à la grève des impôts, bien entendu. Je me contente de lire la proposition de cette auditrice. Mais quel autre moyen avez-vous?
Eh bien, je répondrai à cette auditrice, c'est de venir avec nous le 15 décembre, à partir de 14h, dans l'avenue des Gobelins, et lors d'une marche de soutien au personnel du Mobilier National et des manufactures.
Alors, Mobilier
qui,
National...
je tiens à dire, sont tous unis. L'administration essaye de jouer la discorde, elle n'y arrivera pas.
Ouais, c'est cette suggestion, bien entendu, est une des seules réponses que vous ayez, mais il a défilé des centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, de toutes les professions ou corporations, sans résultat pour elles ou sans résultat patent. Alors, c'est inquiétant. Alors,
mais pourquoi? Parce que nous partons du principe que là, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine des Parisiens. La manufacture des Gobelins et du Mobilier National, c'est pas une histoire qui commence en 1950 ou elle commence en 1400 avec les frères teinturiers, les deux frères teinturiers Gobelins qui viennent s'installer. Et de part, toute une histoire va se greffer. Les ateliers du Faubourg Saint-Marcel vont venir là. Bon, ma collègue tout à l'heure l'a dit. Après, il y a Colbert qui décide la création de la manufacture. Nous sommes sur un site historique. Et d'autre part, par les visites que nous avons eues ce week-end, c'est que les gens sont attachés à leur patrimoine. Et ce patrimoine est fabriqué à Paris. Et ils ne veulent pas que ça disparaisse.
Est-ce que vous ne croyez pas, au fond, une auditrice nous dit le gouvernement Giscard avait tout fait pour le regroupement familial des étrangers, maintenant on fait tout pour dégrouper les familles françaises. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en réalité, au fond, derrière tout ça, se cache une volonté de détruire, de briser, d'écraser la notion même de patrimoine?
Par le fait, si nous éclatons et qu'il y a démantèlement, le patrimoine, il y aura perte du patrimoine, systématiquement.
Mais c'est valable pour vous, c'est valable aussi pour d'autres institutions qui vont être délocalisées, comme vous aimez à le dire. Je prends un exemple, Monsieur Van Kovenberg, qui est un des, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, mais je crois qu'il est président du CIELT, qui est une organisation qui s'occupe de l'examen scientifique du Saint-Suaire de Turin, et lui, c'est un chimiste. Lui, il dit l'École nationale supérieure de chimie de la rue Pierre et Marie Curie, école centenaire qui a formé les plus prestigieux dirigeants de la chimie en France, est expulsé et envoyé dans un champ de betteraves en banlieue parisienne. Mais il ajoute ça, c'est quand même assez réconfortant au fond, il dit, il n'y a aujourd'hui encore aucun crédit pour construire la future nouvelle école. C'est-à-dire qu'on a pris la décision de les expulser, mais on n'a pas encore débloqué un rond pour construire l'établissement où ils vont s'installer. Est-ce que c'est votre cas, vous, ça? Ou est-ce que vous savez si à Aubusson ou à Beauvais, des locaux sont prévus pour vous recevoir?
Alors écoutez, cette information demande d'être vérifiée, mais un de nos collègues de Beauvaisville, aujourd'hui, nous appelait en nous disant que le maire Amsalem de Beauvais était venu dans leurs ateliers en leur annonçant qu'il y avait signature, ça ne veut pas dire construction, mais qu'il y avait signature pour l'acquisition et la construction de nouveaux bâtiments à Beauvais. Mais je tiens à le dire ce soir-là, il faut vérifier l'information. Je ne l'ai pas à 100%.
Donc, dans l'état actuel de vos connaissances, c'est la même situation. C'est-à-dire
exactement.
On sait qu'on veut vous renvoyer comment vous expulser de Paris, mais personne n'a la moindre idée de la façon dont on va vous installer ailleurs.
C'est une évidence, puisqu'il y a, le lieu n'a pas été choisi, il y a deux possibilités. Donc, puisqu'il y a deux possibilités, c'est qu'aucune n'est arrêtée.
C'est-à-dire qu'au fond, c'est une affaire quand même de, quand on connaît la vitesse de travail de l'administration française, c'est une affaire de 5 ans minimum, quoi. Non? Vous espérez partir plus vite?
Nous espérons ne pas partir. Nous luttons pour.
Bien, alors donc, on rappelle que si on veut
aider les gobelins, qui sont quand même un morceau essentiel du patrimoine artistique de Paris, si on veut aider la manufacture des gobelins à rester à Paris, il faut se joindre à la manifestation que vous organisez le 15 décembre, avenue des Gobelins. C'est à quelle heure?
À partir de 14h, normalement.
À partir de 14h.
Bon, nous l'annonçons, mais enfin, il faut quand même que nous déposions le parcours auprès de la préfecture, etc. Mais enfin, nous sommes bien décidés à faire cette manufacture. Je tenais à préciser aussi quelque chose, c'est que pour le mobilier national et les manufactures nationales, nous sommes des fonctionnaires, mais nous sommes les seuls à produire des biens. Ce qui est une grande différence et qui nous dissocie de beaucoup de choses.
C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de souligner le fait que vous étiez des fonctionnaires, parce que ça, dans votre cas, ça n'a rien de blessant. Merci, Monsieur Loison. Merci, Madame.
Je crois, et je regrette de ne pas avoir le carton d'invitation, mais je l'ai reçu hier. Parallèlement, Monsieur Jack Lang invite la presse et des gens bien placés, certainement, à assister à une exposition de tags et de graffiti qui aura lieu prochainement à Paris.
Est-ce que vous faites des savonneries ou des tapis de haute lisse à partir de tags ou de graffiti? Non, pas encore.
Oui, nous avons en savonnerie un peintre très sympa qui s'appelle Texier, et nous avons en ce moment, nous travaillons en collaboration avec lui pour mettre au point une savonnerie.
Eh bien, je vous remercie de cette bonne nouvelle.
C'est de la calligraphie.
C'est de la calligraphie, oui, parce que
c'est pas du tag. C'est un très bon cartonnier, mais enfin, moi, je dirais pas peintre de tag, hein, de toute manière. Non. Je sais pas du tout ton avis pour ça.
C'est un calligraphe. J'aime autant.
Il a vraiment une autre dimension.
En tout cas,
une autre dimension.
On espère que vous obtiendrez satisfaction. Encore que, comme le disait Serge Martinez tout à l'heure, quand 200 000 paysans défilent dans Paris sans provoquer le moindre résultat positif, on peut douter que 120 artistes de basse et haute lisse y parviennent. Mais enfin, en tout cas, on vous le souhaite et on est moralement et pratiquement avec vous, puisque cette émission vous a permis d'exposer vos revendications, comme on dit aujourd'hui. Je vous dis bonne chance et puis à l'année prochaine au Gobelin et à l'année d'après aussi. Merci Michel Loison, merci Catherine Bartolozzi, merci Catherine Gordin. bien, madame, c'est une musique royale pour vous accueillir. En tout cas, musique particulièrement roborative. Je reçois madame la comtesse de Paris, Isabelle, comtesse de Paris, puisque c'est la signature que vous avez voulu donner à votre livre consacré à Blanche de Castille, votre aïeule.
En effet, je vous dis bonsoir. Je suis ravie d'être à Radio Courtoisie, que j'écoute régulièrement, parce que vous avez toujours de la belle musique.
C'est la seule raison ?
Non, 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 aussi pour ce que vous, enfin, vous faites dire aux personnes qui viennent parler.
Je vous remercie de ce compliment. Nous sommes très, très honorés de vous recevoir. Et vous nous disiez que vous écoutiez, avant d'entrer dans le studio,
la complainte des huissiers. La complainte des huissiers, ça m'a fait beaucoup de peine. J'en avais juste vu un petit bout écrit dans un journal. Mais je trouve ça tout à fait tragique. Je crois qu'on va finir par stériliser Paris. Ça va devenir une espèce de grande ville morte, sans famille, sans histoire, sans passé, sans patrimoine. Parce que petit à petit, on est en train de tout vider. Alors on laissera peut-être les murs extérieurs et encore. Bon, bref, de toute façon, cette histoire des gobelins, je trouve ça grotesque. En plus, c'est au point de vue social, même je ne parle pas simplement au point de vue artistique et traditionnel et notre tradition de lycée, mais il y a 1000 métiers qui se rattachent à ça. Il y a les cordiers, les teinturiers, les lainiers, les menuisiers pour les montages de bois, enfin c'est immense, on peut pas envoyer des gens comme ça dans, j'allais dire dans un bled, c'est pas gentil pour Beauvais, mais enfin il faut,
et alors c'est une belle ville,
c'est une très belle ville que je traverse régulièrement en allant à eux. On a restauré en effet l'ancien centre des tapisseries de Beauvais, mais ce n'est pas assez grand pour recevoir ceux des gobelins. Alors, ils disent qu'ils vont construire quelque chose. Alors, d'ici là, on peut encore peut-être manifester pour arriver à les empêcher de partir. Mais je ne comprends pas. Il y a quelque chose de tout à fait maléfique dans tout ça.
Il y a quelque chose de maléfique. Ce qui est étrange, vous en conviendrez, c'est que pas une seule fois il n'a été question, pendant l'entretien que nous avons eu avec les lycées, de tous ces métiers annexes. J'ai essayé d'attirer la conversation sur ce terrain.
Ils n'en ont pas parlé.
Mais ils n'en ont pas parlé, c'est curieux.
Mais parce qu'ils sont... Enfin... Je pense qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'au fond, chacun dans son métier, surtout comme ce métier de lycier, ils sont tellement pris dans ce qu'ils font qu'ils ne se rendent pas compte que les annexes sont aussi importantes que ce qu'ils font eux-mêmes. Et puis ils étaient trop absorbés par leur tragédie personnelle, je crois. Ils ne pensaient pas beaucoup aux autres. Ils ont juste vaguement parlé des teinturiers à un moment.
Le fait de s'abîmer dans sa tragédie personnelle, ça n'est pas du tout...
Ça n'aide pas.
Ça n'aide c'est pas. Très, on ça n'est pas dans votre personnalité.
Non, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'égoïsme n'a servi à rien. Je crois que plus on pense aux autres, plus on aide les autres, d'abord on en a un grand plaisir, et puis on ne pourrait pas vivre en ne pensant qu'à soi, c'est très ennuyeux.
Alors, des auditeurs nous ont appelés, toujours à propos de cette affaire du transfert des gobelins, avec l'humour qui caractérise souvent les interventions de certains auditeurs. Par exemple, un auditeur nous annonce que probablement l'école navale va être obligée de quitter Brest pour s'installer à Chamonix. Ça me paraît, ça, d'une logique... Oui, c'est tout à fait dans la logique du système actuel.
Non, la logique est différente, je crois, car je pense qu'ici, on peut pressentir la volonté de faire disparaître ce métier qui n'intéresse plus notre ministère de la Culture, car il joue. À quoi ça servirait autrement ? 120 personnes, ça ne changera rien à Paris. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les bâtiments sont classés, on ne les touchera pas, sauf un bâtiment, mais ils auraient pu les reloger ailleurs s'ils l'avaient voulu. C'est pas le propos. Je pense qu'ils veulent décourager ces gens-là et qu'effectivement, quand 95% entre eux auront dit non, eh bien, le problème sera réglé par la disparition de cette activité.
Un auditeur propose la délocalisation du Conseil économique et social qui, sauf le respect que je vous dois, madame, nous dit cet auditeur, ressemble étonnamment à la prostate par son inutilité. Les lissiers, nous rappelle un auditeur, étaient logés gratuitement jusqu'en 1960. C'est le général de Gaulle qui a demandé qu'ils payent un loyer. Ben maintenant, ils iront payer un loyer en province. Les gobelins ne sont pas démodés, mais serviront de logements sociaux. Pour les socialistes, dit cet auditeur, qui visiblement dispose d'informations meilleures que moi. Moi, j'ai pas d'informations sur
mais
la...
Mais parce qu'ils ont été incapables d'expliquer ce... quels allaient être leurs successeurs.
Oui, et ils, ont... ils ne savent pas pourquoi.
Non, je pense qu'ils savent où on va les mettre. Et non, pourquoi on les a déménagés. Ils n'ont pas osé le dire. Ils ont l'air très craintifs, les pauvres. Vous n'avez pas trouvé ?
J'ai été frappé par ça. Je trouve que ça, tout ça manque un peu de dynamisme dans
le surtout qu'ils le savent depuis le mois de juillet. Ils auraient pu parler plus tôt. Ben en France, et nous sommes comme ça. Nous ne croyons pas à la catastrophe. Et c'est quand on l'a sur le dos qu'on commence à réagir. Mais quelquefois, c'est un peu tard.
Alors un auditeur nous dit, il y a là-dedans, et c'est un peu ce que vous disiez en commençant, madame, il y a là-dedans une volonté de destruction de la France et de destruction de tout ce qui est vénérable, de ce qui a fait sa preuve, de tout ce qui appartient à une certaine élite et de tout ce qui a un parfum d'ancien régime. Est-ce que vous avez le
mais alors,
même
écoutez,
sentiment ?
Écoutez, votre histoire de certaines élites, eh bien, tout Français équilibré, sain d'esprit et de corps, ayant quelques notions de christianisme, est un personnage d'élite. Voyez un paysan, un bon paysan intelligent, moi j'appelle ça une élite. Un ouvrier qui fait bien son métier, qui l'aime, qui en est passionné, qui quelquefois même en invente, qui invente des pièces pour son atelier, ça c'est une élite. Il faut pas parler d'une certaine élite. Moi je crois que nous, les Français, sont tous, chacun dans leur secteur, un personnage d'exemple. Vous ne trouvez pas ?
Je pense tout à fait comme vous.
Bon, alors pour en revenir, à ce que vous
disiez, pas forcément.
Ce que vous disiez tout à l'heure, votre question était pour savoir si l'on ne veut pas détruire justement ce que vous appelez une certaine élite. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on veut décapiter tout ce qui dépasse un tout petit peu les autres. Que ça soit les monuments, que ça soit les souvenirs, que ça soit les personnages, que ça soit... Alors, dès que quelqu'un montre un peu une tête un peu plus haute, allez, zoup.
Ou une tête qui ne convient pas, car je crois que nous sommes à une période où il est difficile de boucler les budgets et on va faire des économies. Et effectivement, la création de ces genres de ces tapisseries traditionnelles plaît beaucoup moins que la grande bibliothèque moderne, glaciale, en vitre, ou que des colonnes de Buren, bis, etc. Je crois qu'on préfère investir dans cet art abstrait, etc. Et l'art traditionnel n'a plus l'honneur de plaire à cette élite-là.
Ah bon, d'accord.
À l'élite parce de que, Buren.
Oui, l'élite, parce que le grand public aime nos monuments, aime nos musées, aime notre histoire quand on la lui apprend bien. Mais le malheur, c'est qu'on ne lui apprend plus rien.
Tout à fait.
Et une auditrice nous dit d'ailleurs, la culture langue, c'est le paganisme pour les imbéciles, comme disait Baudelaire. C'est une belle formule.
Mmh. Oui, en effet. Bon, écoutez, je crois qu'il faut trouver un sujet un peu plus enthousiasmant.
Oui.
Ben, vous ne trouvez pas ?
On va peut-être passer à un sujet plus enthousiasmant. Non sans avoir dit quand même que l'ensemble des réactions des auditeurs sont des réactions de surprise, un petit peu choquées.
Ah oui,
devant l'attitude des trois lissiers, des trois artistes lissiers, enfin surtout de Monsieur Loison, je crois,
oui.
Nos éditeurs nous disent que c'est une attitude ambiguë, c'est-à-dire qu'il a l'air très navré de tout.
Non, moi je crois que c'est l'attitude d'un militant syndicaliste de gauche fonctionnaire. C'est moi, j'ai décelé ça,
voilà.
Et avec y compris un certain mépris quand j'ai entendu tout à l'heure dire que eux travaillaient avec le temps, alors que leurs collègues qui étaient dans le privé en province travaillaient contre le temps et que ça leur permettait à eux de faire de la qualité alors que les autres devaient faire vite et par conséquent pas tout à fait n'importe quoi, mais moins bien en tout cas. J'ai été très choqué.
Oui. Mais ça, c'est le chef d'entreprise qui parle.
Non, c'est tout simplement parce que je pense que les gens qui travaillent peut-être avec un peu moins de temps, travaillent aussi avec grande efficacité, talent et amour, ne serait-ce que parce que s'ils continuent à travailler, c'est parce que leurs produits plaisent, leur fabrication, leur art plaît et que leur art continue à être demandé. Si il le faisait moins bien, il ne serait pas demandé.
Mais il n'y a pas que qui parle d'histoire, l'ENA qui s'en va, je trouve ça aussi tout à fait désagréable comme impression. Là, il y aura donc plus d'écoles, plus de métiers. Qu'est-ce qu'il y aura dans Paris? Des banques?
Ah ben, je vais vous le dire. Il y a un projet dont on parle actuellement dans le 16e arrondissement, Porte-Maillot. Mais c'est pareil pour tous les projets. Et compte tenu de la nouvelle politique des socialistes visant à faire en sorte que les banlieues soient moins ghettoisées, on impose dans les nouveaux projets du social, mais du social pas cher du tout, pour permettre de mélanger en quelque sorte le centre de Paris avec les banlieues. Donc on va faire venir certains habitants de certaines banlieues dans Paris, et forcément, on va par conséquent faire que les travailleurs, artistes, artisans français aillent en province, voilà. On brasse.
Enfin, je pense qu'on n'a pas...
Et dire qu'en Russie, ils ont cessé de brasser dans ce genre-là. Ça, on essaie de corriger ce qui s'est passé pendant 48 ans de socialisme russe. Et maintenant, nous continuons. C'est un comble.
Mais je crois qu'en Russie, ils ont eu la chance de donner quelques coups de pied
au culte de la personnalité.
Du système qu'on n'a pas réussi encore à donner en France.
Enfin, la France restera donc le dernier pays marxiste en Europe.
J'ai l'impression, triste impression. Non, écoutez quand même, pas. Allez, dramatisons pas.
Ne dramatisons
mais,
non, pas.
Mais il y en a quelques-uns, mais ils vont finir par disparaître, je crois, parce que il y a quand même une masse convenable chez nous, mais elle bouge trop tard, comme je vous dis.
Oui, certainement. On a vraiment l'impression que les gens attendent d'avoir la tempête sur le dos pour se mettre un ciré.
Oui.
Mais surtout pour pouvoir se mettre à l'abri. Et c'est un peu le sentiment que donnait cet entretien que nous venons d'avoir avec les artistes.
Oui, j'ai trouvé très déprimant.
Il nous reste 5 minutes, mais nous, à 5 minutes avant l'interruption de 7h30, après laquelle nous poursuivrons cet entretien. Je ne voudrais pas commencer avant l'interruption de 7h30, donc, à parler de votre livre, madame Blanche de Castille, mon aïeul, que vous avez signé Isabelle, comtesse de Paris. Donc, on va en parler, si vous voulez, à partir de 7h30. Mais avant de parler de ce sujet proprement, j'aimerais qu'on reste un petit peu dans l'actualité. J'aimerais que vous nous disiez quelle est votre réaction devant l'actualité en général, et notamment sur un problème précis que nous avons évoqué avant votre arrivée dans ce studio, qui est le débat autour de la peine de mort. Je pense que il serait très intéressant que vous nous disiez, non pas forcément votre position personnelle sur la peine de mort, mais le regard que vous posez avec le recul que vous donne à la fois votre, je n'ose pas dire votre charge, je dirais votre fonction et votre expérience, le regard que vous posez sur la société aujourd'hui, à travers cette question de la peine de mort. Tout spécialement.
Oui, la peine de mort, depuis tout enfant, quand on nous apprenait la Révolution française, la guillotine, le musée carnavalet qu'on nous faisait visiter, ou des choses épouvantables, et le musée Grévin surtout, ça m'a laissé une espèce de frisson dans l'âme que je n'oublie pas. Il y a des... Alors, la peine de mort, c'est vraiment quelque chose d'effarant. Alors, maintenant, pensons, est-ce utile? Est-ce nécessaire? Doit-on l'appliquer? Il y a évidemment la question de la faute terrible. Il y a des fautes épouvantables, des assassinats, des meurtres d'enfants, surtout les meurtres d'enfants, les meurtres de pauvres vieilles dames dans leur chambre. Le meurtre en soi, de toute façon, est horrible. Et alors, doit-on payer par le meurtre? Voilà la question. Je crois que jadis, c'était immédiat. On n'avait pas le temps d'y réfléchir. Quelqu'un tuait, on l'attrapait, on le tuait. C'est à peu près ça. La justice était beaucoup plus rapide que maintenant. Alors maintenant, après une chose épouvantable, horrible, un crime affreux, le criminel attend indéfiniment Va-t-il être condamné? Va-t-il... Alors ça, c'est horrible. C'est cette attente que je trouve terrible. Je trouve qu'on devrait, s'il faut exécuter, qu'on exécute tout de suite. Moi, je suis quand même assez violente et je trouve qu'il y a des personnages qui devraient passer de vie à trépas aussi vite qu'ils en ont envoyé d'autres.
Au fond, vous êtes un petit peu réactionnaire. Vous trouvez que les choses allaient mieux avant?
Bon, ben non, on n'allait pas mieux, mais c'était pas mieux pour autant, je dois dire. Parce que je crois que c'est un problème et une question que le monde se posera toujours. Et il y aura toujours des demi-mesures ou des mesures trop drastiques. Quand, vous, évidemment, vous allez dire que je fais des réponses de Normand.
Non, bah écoutez, c'est vraiment la moindre des choses. Non, je trouve pas du tout que ce soit des réponses de Normand. Je trouve que vous nous avez répondu d'une façon assez claire. Vous vous interrogez sur le bien fondé d'une mesure qui est prise tardivement par rapport au crime qu'elle vient sanctionner.
C'est surtout ça.
Et je vous remercie de nous avoir ouvert votre cœur sur ce sujet, qui n'est pas un sujet facile, d'autant que vous n'aviez pas eu le temps de préparer votre réponse, puisque vous ne saviez pas du tout que je vous poserais la question. Nous allons faire l'interruption de 19h30, et tout de suite après, nous parlons de votre livre « Blanche de Castille, mon aïeul ».
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, document d'archives de Radio Courtoisie du 27 novembre 1991, diffusé mercredi 12 août 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé également jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Je suis très heureuse d'entendre la comtesse de Paris et j'aimerais que vous invitiez Diane de Wurtemberg, sa fille, dont j'avais tant aimé l'intervention sur votre antenne. C'est une auditrice et un auditeur, merci d'avoir invité la comtesse de Paris. Donc vous voyez que, madame, votre présence ici est accueillie avec plaisir et bonheur par nos auditeurs.
Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et je le dirai à ma fille.
Oui, que nous avions eu le plaisir de recevoir pour parler de sa fondation.
Oui, mais sa fondation, elle est venue parler. Mais ça va, ça marche. Elle donne des fêtes, enfin, des réunions de charité ponctuelle. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas des grandes fêtes à tout casser, mais elle fait des... ou des présentations de livres, ou une vente de charité, ou des tableaux. Et l'argent recueilli est immédiatement distribué à une œuvre qu'elle a choisie à chaque fois. Elle a été en Corse pour des maisons d'enfants handicapés qui n'avaient pas... ces maisons étaient vraiment très pauvres. Elle a été maintenant à Palma pour donner de l'argent à des orphelinats indépendants, enfin, qui n'étaient pas subventionnés par l'État ou très peu. Elle a été dans le midi de la France pour s'occuper d'une œuvre où des familles qui avaient des enfants menacés de cécité, une maladie dont j'ai oublié le nom. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, l'argent, il n'y a pas de secrétariat, elle n'a pas de défense, son mari s'occupe de la comptabilité, elle s'occupe de la propagande et du courrier avec une secrétaire, et l'argent recueilli est immédiatement distribué. Il n'y a pas d'argent.
Pas de déperdition.
Non.
Écoutez, on sera très très content de la recevoir lorsqu'elle viendra à Paris, avec grand plaisir, pour qu'elle nous...
Surtout qu'elle vient du Tibet, elle est au Tibet maintenant, imaginez.
Ah, il faudra qu'elle nous parle de ça, alors, oui. Parce que ça, c'est assez rare. C'est un lieu de villégiature qui est assez...
Non, mais c'est pas une villégiature. Elle y a été malade comme une bête parce qu'elle ne supportait pas l'altitude. Bon, enfin bref, ça fait rien. Elle est revenue, elle va très bien.
L'essentiel, c'est qu'elle est bien. Alors, venons-en à votre livre, Blanche de Castille, mon aïeul. Il faut dire quand même qu'en 1991, publier un livre dont l'héroïne est née en 1188, et intitulé ce livre « Blanche de Castille, mon aïeul », c'est un paradoxe intéressant. Enfin, c'est une audace quand même.
Vous trouvez que j'étais un peu fort ?
Non, non, pourquoi ? Pas un peu fort. Je pense que vous avez tous les moyens de prouver ce que vous avancez.
Oui, oui, je peux le prouver, certainement. Non. Et en plus, c'est une personne, une femme, une grande dame que j'ai toujours admirée et qui pourrait être un exemple. Parce qu'elle n'est pas démodée. C'est une personne qui aurait pu vivre à notre époque.
Alors vous allez droit au cœur du livre, du sujet, parce qu'effectivement, l'impression qu'on retire de ce livre, et je voudrais qu'on essaye d'approfondir ça, c'est que Blanche de Castille, c'est un personnage actuel, peut-être même un personnage un petit peu moderne pour notre... un petit peu dur, un petit peu sévère pour notre époque. Sévère dans le sens non pas de la sévérité ancienne, mais d'une certaine, certaine ambition, d'une certaine volonté de vivre, de vaincre et de régner, et d'un certain calcul. C'est une femme d'affaires, en fait. Probablement aujourd'hui, si elle était vivante, elle serait à la tête d'une grande entreprise internationale.
Oui, je pense. Mais il y a une chose que vous ne voyez pas dans tout ça. En effet, elle était ambitieuse, en effet, elle était forte, en effet, elle a entrepris des choses absolument extraordinaires pour une femme, parce qu'elle a, elle a pu remettre à son fils un royaume en paix et agrandi. Ça, c'est alors, déjà énorme.
Pardonnez-moi de vous couper, parce que je pense à mes fils, par exemple, qui peuvent écouter l'émission. Je précise que Blanche de Castille, c'est 1188-1252, je crois, quelque chose comme ça.
Mère de Saint-Louis.
C'est la mère de Saint-Louis, c'est ça, c'est important.
Elle a eu 12 enfants, et tous, 3 sont morts seulement, jeunes, mais les autres ont quand même vécu à peu près normalement. Mais alors, surtout, vous disiez, elle ne pourrait pas être moderne. La seule chose, c'est que vous ne l'avez pas dite, c'est qu'elle a entrepris 1000 choses, elle a une force énorme, elle a toutes les qualités, tous les défauts que vous voulez. Mais elle a fait tout ça pour sa descendance. C'était la France, représentée par son fils couronné à Reims. C'était quelque chose d'intouchable. Au point de vue, il fallait qu'elle fasse cette pyramide, il fallait qu'elle construise ce royaume autour de ce fils qu'elle a tout de suite fait sacré à Reims. On oublie toujours que le sacre de Reims était quelque chose, je ne dirais pas mythique, c'est beaucoup dire, mais quelque chose qui rendait le roi intouchable et qui devait le rendre parfait et surtout aimant et défenseur de son pays. Tout ça, c'est une chose, évidemment, qu'on ne pourrait pas trouver maintenant dans un chef d'industrie, je dois dire. Mais il y a de nombreux chefs d'industrie, femmes ou hommes, qui travaillent quand même pour leurs fils. Mais de nos jours, le monde va si vite, les industries sont si fluctuantes, qu'il est très difficile de faire hériter à ses fils et petits-fils ce pour quoi on a travaillé. Tandis que là, encore, à cette époque, on avait la chance. Quand on faisait quelque chose, on faisait pour la postérité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent à la postérité ? On pense à son bénéfice personnel et actuel. C'est ça aussi le malheur.
Ça, c'est une impression qu'on tire de ce livre également. C'est on a le sentiment presque palpable du temps qui passe dans votre livre. C'est-à-dire que, par exemple, vous nous racontez le premier voyage de Blanche de Castille, quand elle part de la cour familiale pour monter vers Bordeaux avec sa grand-mère Aliénor d'Aquitaine, dont on peut regretter que vous ne fassiez pas un portrait plus fouillé parce que ça a l'air d'être un personnage absolument extravagant.
De Blanche
la grand-mère.
La grand-mère Aliénor. Mais la grand-mère Aliénor, on a écrit des livres remarquables sur elle. Entre autres, Régine Pernaud a écrit un très bon livre sur elle. Là, je crois qu'on a tout dit.
Oui. Alors, je vais pas. C'est un peu dommage qu'on la voit pas plus dans ce livre parce que vous la prenez simplement pour accompagner Blanche
et puis la laisser. Et oui, ça c'est vrai. J'aurais pu m'étendre aussi sur Philippe Auguste, qui est un personnage extraordinaire. Mais je n'avais j'aurais pu le faire.
Et alors, on a donc justement cette impression presque palpable du temps, et on a l'impression que Blanche et puis les autres personnages, Philippe Auguste, etc., ont eux aussi le sentiment d'une certaine maîtrise du temps, une certaine. On a l'impression que la vie dure beaucoup plus longtemps pour eux
que pour nous.
Que pour nous.
Mais c'est, au fond, ils font énormément de choses. Ouais. Nous faisons peut-être beaucoup de choses, mais ça va tellement vite. Les événements se succèdent à une rapidité. Écoutez, par exemple, depuis l'écroulement du mur de Berlin, regardez tout ce qui est arrivé et tout ce qui continue à se précipiter comme une cascade, comme une avalanche. Les événements, jadis, je vois ce qui se passait dans notre histoire du passé plus comme un fleuve qui coule lentement dans une plaine. Tandis que maintenant, tout se bouscule comme des avalanches. On n'a pas le temps de réfléchir, de voir, de regarder. Tandis que l'histoire passée, bon, évidemment, nous la voyons avec du recul, mais eux-mêmes, je crois, avaient le temps de faire 1000 choses qu'ils approfondissaient plus.
Ce qui est très étonnant quand on vous entend, madame, c'est que on a l'impression, on constate que, avec toute votre expérience, avec la vie extraordinairement compliqué, agité, rempli, meublé d'événements tragiques que vous avez oui. eus, et en même temps avec le recul que vous avez pu avoir sur cette histoire, sur les événements et sur mes choses, vous restez totalement impliqué dans l'actualité, vous vous tenez au courant de tout, vous observez tout avec curiosité, avec gourmandise, avec passion, c'est tout à fait extraordinaire. Ça. D'où ça vient cette espèce
cette curiosité.
D'appétit de la vie?
Ah, vous avez trouvé le mot, c'est l'appétit de la vie. Je ne me réveillerai jamais le matin sans me réjouir de ce qui va m'arriver. Bon, quelquefois, on a quelques avatars et quelques pépins. Bon, enfin, on passe par-dessus. Mais je trouve la vie passionnante. Alors, bon, elle est passionnante par des choses réelles et belles, comme une belle forêt, une belle peinture, un beau concert. Mais elle est passionnante aussi par les événements politiques qui se succèdent vite et au fond qui ne me plaisent pas beaucoup pour l'instant. Alors là où je suis curieuse et que j'ai envie de voir, alors pour le coup de voir la vie couler plus vite, ben je me dis, mon Dieu, peut-être que dans 5 ans ça ira mieux, peut-être que dans 6 ans ça ira mieux, parce que maintenant c'est vraiment le pétrin.
Oui, on peut difficilement descendre plus bas.
Non, justement.
Quelle est la part de confiance que vous mettez dans la Providence?
Ah, total. Heureusement qu'il y a la Providence, Seigneur Dieu.
Pour la France, j'entends.
Pour la France, pour moi, pour chacun. Alors voyons, que je n'ai pas l'air quand même d'être une bigote. Je ne suis pas bigote. Mais je ne pourrais pas vivre sans la croyance et la présence de Dieu. Je ne m'imagine pas une vie, et il existe des personnes très remarquables du reste, quelques-unes qui mènent des vies absolument parfaites, mais pour lesquelles Dieu n'existe pas, la vie éternelle n'existe pas. Alors ça, je le trouve inconcevable. C'est peut-être une foi de charbonnier, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, mais d'abord ça donne une confiance absolue, ça donne une absolue confiance en 1000 choses, même quand il y a des tragédies qui arrivent, quand il y a des choses qui ne se présentent pas très bien comme ce... Là, je vous dis, notre politique actuelle, je me dis peut-être que, je ne sais pas si le bon Dieu a le temps de s'en occuper, mais c'est à nous de nous en occuper bien pour arriver à faire le bien. C'est ça la question. C'est pas tout de dire qu'on croit en Dieu, qu'on aime Dieu, qu'il est là et qu'il nous... Non, non, nous devons rentrer dans son sillage et y arriver, c'est ça la difficulté.
Vous parliez de tragédie, vous avez connu dans votre existence de véritables tragédies personnelles, des drames terribles. Oui. Je pense à la mort d'un enfant, par exemple.
La mort de François et la mort de Thibault.
Voilà.
Ça fait deux petits, deux garçons, deux beaux garçons. De beaux garçons qui manquent toujours.
Et vous avez quand même toujours gardé confiance dans la Providence. Vous avez toujours attribué à la Providence.
Mais oui, parce que pourquoi est-ce qu'on s'imagine que Dieu nous a mis au monde pour qu'on passe son temps à être heureux? D'abord, ça serait très ennuyeux si on n'avait jamais d'épreuves. si on vivait béatement depuis la naissance jusqu'à la mort, sans, dans une uniformité totale. On ne peut pas avoir que du bonheur. Si on n'a que du bonheur, ça devient ennuyeux. Si on n'a pas un peu de malheur à côté. Bon, il y en a qui en ont trop. Ça, je suis d'accord.
Oui, le partage n'est pas toujours...
Non, mais... Je crois que ça fait partie de la vie. La mort existe. Une vie sans la mort, ça, c'est inconcevable. Enfin, notre vie, je ne suis pas philosophe, mon cher, mais il y a des choses que je trouve indispensables pour qu'une vie vaille la peine d'être vécue. Il faut un effort dans la vie. Il faut, mais j'en reviens toujours à ceux qui font plus d'efforts que d'autres. Mais il y en a qui font beaucoup d'efforts avec une foi et une allégresse de cœur et d'âme extraordinaire. Alors ça, je les admire. On voit des gens vraiment très misérables qui gardent la foi en Dieu et surtout et qui n'ont pas d'aigreur, qui n'ont pas d'envie, de jalousie. Ils ont une vie dure et difficile, ils la mènent avec courage. Alors justement, parce que ceux-là ont la foi et croient en Dieu. Et j'admire ceux qui mènent ces vies-là sans croire en Dieu. Et ça existe.
Les auditeurs ont peut-être l'impression qu'on s'est un peu écarté de Blanche de Castille, votre aïeule.
On est dans le sermon pour
l'instant. Mais au fond, je pense pas du tout qu'on en soit éloigné, parce que ce que vous venez de tracer, c'est un peu aussi un portrait de Blanche de Castille. Et je me demande d'ailleurs si, au fond, cette Blanche de Castille, le portrait que vous en tracez, c'est pas une espèce d'autobiographie un peu rêvée ou un peu cachée.
Ni cachée, ni rêvée. Bon, alors il y a peut-être une espèce de symbiose quand même, sans le vouloir. Maintenant que tout le monde me le dit, alors je suis très étonnée, mais en écrivant le livre, j'y avais pas pensé. Mais évidemment, Blanche a des manières d'agir, ou plutôt, je comprends des manières d'agir de Blanche parce que j'aurais agi de la même façon. Elle devait être passionnée et violente. Alors, de temps en temps, elle avait toujours la même histoire avec sa fameuse belle-fille, qui était aussi un personnage très... Il faudrait un jour... On connaît mal la petite Marguerite de Provence, mais on dit toujours la petite Marguerite parce qu'elle était beaucoup plus jeune que sa belle-mère, mais elle a fini vieille aussi, la pauvre fille.
Ce qui n'est pas forcément un défaut,
mais non. Mais les agacements de Blanche vis-à-vis de sa belle-fille, c'était que des petits, au fond, des agacements que je comprends très bien, mais qui ont été montés en épingle. Et ce sont les seules choses que l'on connaisse de la vie intime de Blanche. On connaît son histoire politique, on connaît tous les événements auxquels elle a présidé, on connaît toute la trame de son histoire, mais de vie privée, le peu de choses qu'on connaît, c'est des critiques de Joinville. Et dans notre histoire post-révolution, j'en reviens toujours à ça, que nos historiens, après la Révolution française, avaient tellement peur qu'on puisse les traiter de... Non, ils n'avaient pas peur, mais ils n'ont pas voulu... Ils ont bien voulu marquer la différence entre avant la Révolution et après la Révolution. Et ils étaient tous, la plupart, de très bons écrivains, comme Michelet et d'autres. Ils ont tout ce qui était avant la Révolution française, il fallait bien qu'ils parlent des événements politiques. Mais ils ont fait l'histoire, par exemple, de Blanche ou d'autres, en montant en épingle les défauts.
Ils ne pouvaient pas montrer la moindre sympathie pour les personnages de l'Ancien
aucun.
Régime.
Ils ont fait de Louis XV un portrait épouvantable. Louis XV, après, maintenant, on le réhabilite. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne réhabilite pas. Ils n'avaient pas besoin d'être habilités. Mais seulement, on cherche beaucoup plus profondément dans les archives et on arrive à analyser d'une façon intelligente et objective. Alors nous avons, vous, moi, tous, nous avons appris notre histoire de France dans Isaac et Malais et d'autres. Alors c'est un peu la critique totale de l'Ancien Régime.
Mais alors, en revanche, la symbiose dont vous parliez à l'instant entre Blanche de Castille et vous, madame, cette symbiose vous permet de faire un portrait de Blanche de Castille, qui est un portrait très animé et très intime en réalité, qui va par exemple jusqu'à la description physique du personnage. Alors c'est amusant parce que vous nous dites, vous nous la décrivez
bon, grande et mince, grand en tous les mince, cas, mais on la voit, les seules représentations qu'on ait d'elle, c'est son sceau. Le sceau, on voit une personne mince et grande.
C'est ça.
Parce que vous la voyez avec les cheveux noirs. Ah oui, alors ça.
Et vous nous dites, la duchesse de Guise, ma belle-mère, la voyez avec les cheveux roux.
Oui.
Cuivre.
Cuivre, alors.
Alors, sur quoi repose cette connaissance?
Alors, ma belle-mère était très catégorique, tandis que moi, je crois que c'est un peu d'imagination, quand même. Mais ma belle-mère était très catégorique en disant qu'elle est, je sais pas, il faudrait que je retrouve la filière de cette idée.
Il faudrait, c'est amusant de, oui. C'est une espèce de tradition familiale qui veut que...
Quelle est-ce qu'elle fut rousse? Enfin, blond-roux. Pourquoi pas? Mais qu'elle ait eu la peau blanche, c'est sûr, très blanche. Enfin bref, écoutez, ne parlons pas de son physique parce que ça, évidemment...
Mais c'est amusant parce qu'on a l'impression que vous l'avez vue finalement en rêve au moins, en imagination, en pensée, vous nous la décrivez, on la voit, une belle grande jeune fille brune, peut-être, avec des reflets roux peut-être, et un beau visage, une peau très blanche. On a l'impression de la voir avec...
Alors, par exemple, son mari, enfin, le futur Louis VIII, lui, on connaissait, on a bien décrit, les chroniqueurs l'ont décrit.
Il était
comme sa mère, Isabelle de Hainaut, la première femme de Philippe Auguste, avec des grands yeux bleus, le teint très clair, et des cheveux blonds, enfin, un beau blond. Du Nord.
Ça devait être un très beau couple.
Oui.
Alors, on découvre une autre chose qui est absolument inattendue, c'est que vous descendez de Mahomet. Ça, c'était une surprise à la lecture de ce livre.
Mais par écoutez, Blanche de Castille. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une tradition familiale de notre, enfin, du côté des d'Orléans, on le dit. Je connais d'autres familles qui en descendent, et puis, il y a les Marocains, enfin, oui, au Maroc, il le disait aussi, et qui nous l'a bien expliqué il y a des années, et je n'ai malheureusement pas pris des notes à ce moment-là, c'était le beau-frère du roi Hassan actuel. Il a une sœur qui a épousé un moulé à fit, je crois. Enfin, bref. Ce personnage était ambassadeur du Maroc en France du temps de Gaulle, un jeune homme marié à une sœur de Hassan. Il est venu plusieurs fois nous voir à Louvciennes, dîner avec nous, et la première fois quand il est venu, il a dit au comte de Paris, « Monseigneur, au fond nous sommes cousins ». Alors Henri, ça a tout de suite fait tilt, il est rapide, il a dit « Ah oui, par Mahomet ». Alors l'autre était très étonné qu'Henri le sache. Mmh. Et alors là, il nous a tout expliqué, depuis Mahomet jusqu'à nos jours, par quel cheminement c'est arrivé là, au roi de Castille, puis à Blanche de Castille. Malheureusement, à ce moment-là, je ne pensais pas écrire, et j'ai pas pris de notes, c'est idiot. Alors j'ai écrit au Maroc pour lui demander de me dire tout ça. Et malheureusement, là-dessus, il est mort d'un cancer, le pauvre homme. Alors, bon, il faut que je cherche une autre source.
Il faudra faire des... Alors, justement,
oui,
pour parler
je vais la trouver.
De recherche historique. Comment se sont passées vos recherches sur Blanche?
Alors, d'abord, comme dans tous les livres dont on parlait d'elle, on parlait surtout de sa vie en France et puis de ses histoires avec Thibaut de Champagne. Mais on parlait très peu de sa jeunesse et de son passé, et surtout de son passé en Espagne. Alors je me suis dit, je vais aller faire un tour. Comme je vais souvent en Espagne, j'ai une fille qui habite là-bas et un fils aussi. Je suis allé à Plasencia, je suis allé à Burgos, à Tolède, à Soria, dans tous les lieux où ce roi de Castille et son épouse Éléonore ont passé avec leurs enfants. J'ai trouvé des archives aussi à Plasencia. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné des choses à lire très passionnantes. Alors j'ai pu me faire un petit bagage espagnol. Et puis ici alors en France, alors vraiment je n'ai pas eu le temps et j'ai chargé Mademoiselle Lebis
de me faire... À laquelle vous rendez hommage dans les premières pages.
Oui, de me faire la chronologie historique et les dates des événements. Parce que ça, il ne fallait pas que je me trompe. L'histoire en général de Blanche de Castille, je la connaissais depuis toujours. Mais je ne voulais pas me tromper au point de vue chronologie historique, parce que sans ça, je me serais fait ramasser par le premier historien français. Alors, je ne voulais pas. Et je crois que je m'en suis tiré bien.
Et pourquoi cette attirance particulière pour Blanche de Castille? Parce que vous dites Blanche de Castille, mon aïeul, mais vous en avez eu bien d'autres.
Bien d'autres, oui, mais il y en a. Et, au fond, pourquoi? Parce que d'abord, c'est une période qui me passionne. Le 12e, 13e siècle, je trouve une des périodes les plus glorieuses de notre histoire, de notre art. On a construit les cathédrales à ce moment-là. Les orfèvres ont surgi à Paris, dans toutes nos villes. Bon, il y en avait déjà avant, mais surtout... Enfin, c'est la première... La bourgeoisie... Les troubadours. C'est la période où certaines villes avaient déjà leur maire, comme notre ville 2. Les premiers maires, les premiers bourgeois ont apparu à cette époque-là aussi. Nous sommes dans des pays où la bourgeoisie s'est formée très tôt et le mieux. Tout ça, c'est fascinant. Vous trouvez pas?
C'est intéressant de vous en entendre parler, en tout cas.
Parce que c'est toutes ces raisons.
Je sais pas si la naissance de la bourgeoisie est une chose très positive. Je suis pas absolument convaincu que ce soit le cas.
Et si, quand même, parce que tout dépend ce qu'on en fait, est-ce qu'elle fait. À cette époque, c'est elle qui gérait les villes, qui était baillie des villes,
oui, mais
qui était maire.
C'est une fonction parasite, par définition. C'est de la fonction qui aurait dû être assurée par les
seigneurs.
Les seigneurs.
Il n'y a pas assez de seigneurs.
C'est naturel des seigneurs.
Les seigneurs étaient sur leurs terres, dans leurs châteaux, à la guerre, sur les terres. Les bourgeois n'en sont pas sur les terres. Il faut quand même qu'il y ait... Il n'y a pas de bourgeois sur les terres.
C'est un vieux débat, ça.
Oui.
L'utilité ou la nocivité de
la bourgeoisie. En France, on ne l'aime pas beaucoup. C'est très curieux. Et c'est pourtant le pays où il y en a le plus.
Oui, c'est probablement pour ça.
Oui.
Ils ont bien servi le roi.
Oui, quand même.
Oui, jusqu'au moment où ils lui ont fait sauter la tête. Mais ça, c'est une autre paire de manches.
Oui, enfin, ça, c'est une période horrible. Ben justement, ne revenons pas à la peine de mort, je vous en prie. Mais alors, pour en revenir à cette époque du XIIe siècle, la XIIe et XIIIe, c'est une période que les historiens post-révolution traitaient d'obscur Moyen-Âge, mais ils avaient tout à fait tort. C'était vraiment la période d'expansion extraordinaire. C'est l'époque où, dans tous les pays, il y a eu une espèce d'éclatement vers une vie... plus aérée, plus nouvelle, plus de connaissances, de voyages. Quand on pense que Saint-Louis a envoyé des franciscains jusqu'en Chine pour savoir ce qui se passait là-bas de l'autre côté, une troupe de franciscains ont mis je ne sais pas combien d'années, ils sont revenus, on ne les a pas tous tués, il y en a un ou deux qui sont morts en route, ils ont eu des aventures incroyables, parce que ils ont passé par un endroit du côté des... au nord des Tibétains, dans la toundra là-bas. Mais ils ont bien dû coucher sous la tente avec tous les Tibétains.
Sous la yourte.
Oui, sous les yourtes. Et alors la grande politesse là-bas, c'est de coucher avec les femmes.
Oui,
alors on leur a offert à tous des femmes, et ils écrivent dans leurs écrits, nous avons bien été obligés, parce que pour accomplir la mission de notre roi, il fallait qu'on arrive vivant en Chine.
Ce qui est amusant, c'est que votre livre fait apparaître une dimension à laquelle on pense assez peu, finalement, quand on parle du Moyen-Âge. C'est la dimension, pour employer un mot actuel, la dimension cosmopolite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les frontières étaient évidemment moins fixées qu'aujourd'hui. C'était plus des marches, d'ailleurs. Vous expliquez très bien que c'était plutôt des régions qui servaient de tampons entre les royaumes. Mais même dans les idées, puisque vous citez ces cinq vers, plume plaît chevalier français et dame catalane, et l'honneur génois, la cour de Castille et le chanté provençal. On voit que le choix des...
était très vaste.
Était très vaste, oui.
Alors, et au fond, ils comprenaient toutes les langues.
Enfin, oui, mais c'est à cette occasion, d'ailleurs, que vous parlez de ça.
Surtout, les marchés étaient une occasion de rencontres et d'échanges extraordinaires. Il y avait des marchands qui venaient depuis la Bohême et d'autres qui partaient de la Catalogne. traversaient la France, vendaient leur peau, leur fourrure, leur or, leur pierre. Et tout ce monde-là se comprenait.
Mais malgré tout, alors c'est ça qui est assez étonnant, Blanche de Castille, qui est espagnole, qui est castillane en tout cas,
oui.
Arrive en France, toute jeune, épouse le futur roi de France, et à partir de ce moment, elle va devenir, je dirais presque, fanatiquement française. Elle va être,
oui.
elle semble n'être attachée qu'à la consolidation, à la reconquête de ce royaume.
Mais ça vient d'abord, je crois, parce qu'elle était très amoureuse de son mari, Hédin. Ça fait beaucoup, ça. Elle s'est dit, il faut que j'aide mon mari à avoir un beau royaume. Je crois qu'elle admirait son beau-père. Elle n'en avait pas peur. Le beau-père Philippe Auguste avait un sacré caractère. Tout le monde tremblait devant lui, mais je
c'est
crois...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Comment?
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais je ne crois pas qu'elle en ait eu peur. La preuve, cette conversation qu'elle a eue avec son beau-père pour qu'il envoie de l'argent à son mari quand il était prisonnier en Angleterre.
Oui, racontez-nous ça.
Ah, ben oui, parce que Philippe Auguste a laissé son fils partir parce qu'il y avait le grand conflit, royaume d'Angleterre, royaume de France, à qui appartenait-il, etc., héritage, pas héritage. Et là-dessus, le jeune Louis VII, Louis VIII, je veux dire, part pour conquérir son royaume d'Angleterre. Enfin, c'était assez hypothétique. La raison réelle, je crois que c'était de vouloir aller un peu agacer ces Anglais qui nous agaçaient trop en Normandie. Enfin, il est parti, et puis, manque de chance, il a fait naufrage, il a eu un tas d'aventures, il est prisonnier. Pas très gravement, mais enfin, pour pouvoir rentrer en France, il fallait qu'il paye navire, rançon, et il n'avait plus un sou. Alors son épouse Blanche s'est démenée pour avoir de l'argent. Elle a même vendu quelques terres qui lui appartenaient, mais ça ne suffisait pas. Et elle a demandé à Philippe Auguste de donner de l'argent pour sauver son fils. Et Philippe Auguste a commencé par l'envoyer paître. Alors elle s'est fâchée. Elle lui a dit, écoutez, si c'est comme ça, moi je vais mettre mes enfants, j'ai de très beaux enfants, je vais les donner en otage pour sauver mon mari. Alors là, il s'est dit, elle est capable de le faire. Hein. Alors il lui a donné de l'argent nécessaire pour ramener le fils. Mais il faut avoir du toupet quand même.
Oui, oui.
D'arriver à trouver un vieux monsieur devant lequel tout le monde tremblait et lui dire, je vais mettre mes enfants en otage si vous ne me donnez pas d'argent pour sauver mon mari. Mais elle a eu plusieurs choses étonnantes quand elle est devenue veuve.
Oui, j'allais vous parler de ça, justement.
Quand elle est devenue veuve.
Quel âge a-t-elle quand elle devient
35
veuve
ans.
35 ans, oui.
À 35 ans, elle est encore fort bien. Et, Thibaut de Chambagne lui faisait la cour. Et puis, il y avait Monseigneur, avec insistance. Et puis, il y avait Monseigneur Frangipani aussi, le légat du pape. Bon. Et évidemment, les seigneurs étaient. Le roi était déjà couronné, son fils. Elle avait déjà été à Reims à toute vitesse faire couronner son fils. Elle est revenue. Il y avait des intrigues multiples de seigneurs qui voulaient ci, qui voulaient ça. Et tout d'un coup, on l'a accusé d'attendre un bâtard, d'attendre un enfant après la mort de son mari. Ben, elle a fait ni une ni deux. Elle a convoqué les évêques, les sages-femmes. Elle est arrivée en chemise. Dans la salle du château, il y avait les évêques et les sages-femmes pour montrer qu'elle n'attendait pas d'enfant. Ben, faut le faire, hein.
Ah oui.
Là, du coup, les seigneurs ont été très gênés. Ils l'ont raccompagnée dans sa chambre.
Mais dans la mentalité de l'époque qui était un peu plus...
Je trouve ça extraordinaire. De nos jours, où tout le monde se met à moitié nu en bikini, il n'y a pas une femme qui ferait un truc pareil.
Et alors, à l'époque, c'était plus franc. C'était...
Voilà, on était direct. C'est, comme vous dites, c'était franc.
Comment se passe son évolution personnelle quand elle devient régente? Parce que jusqu'au moment où elle prend la régence, c'est une femme qui mène une vie...
Alors, d'abord, le roi n'a pas... On ne parlait pas du... Le mot régence n'existait pas encore. Le roi, mourant, lui a donné le bailliage du royaume. Elle est devenue... Le bailliage, le roi lui a dit, je donne le bailliage du royaume à ma femme et mes enfants, enfin bref, tout un texte très, très extraordinaire. Bon, elle apprend. Elle va à la rencontre du... Parce que son mari revenait du sud de la France et il est mort en cours de route. Et elle descendait de Paris pour aller à sa rencontre. Et puis, elle est arrivée quand il était mort. Bon, le premier choc a été terrible parce que là, elle s'est laissée aller. Et elle a eu un moment de dépression totale, si on peut dire. Et on a même cru qu'elle allait se laisser dépérir, mourir. Alors là, les seigneurs et les évêques et tout ça sont allés la secouer en disant « Non, il n'est pas question, hein, remuez-vous. » Bon, alors elle s'est secouée, la pauvre femme. Et dès qu'elle s'est reprise, alors là, elle s'est reprise, mais très vite tout d'un coup. Parce que quand elle est... Le sacre de Saint-Louis, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle apprend la mort de son mari qu'elle adorait. Elle en devient presque cinglée de douleur. Elle se laisse... On croit qu'elle va se laisser mourir. Et puis tout d'un coup, elle réagit. Elle se dit non, il y a mon fils qui doit être sacré, parce que s'il n'est pas sacré, les seigneurs vont se mettre à grignoter des terres dans tous les sens. Et en ni une ni deux, en 3 semaines, à peine 3 semaines, elle organise tout le sacre de son fils à Reims. Et à partir de ce moment-là, alors elle est partie. C'est bombe.
C'est la clé, enfin l'espèce de pliure dans sa vie. C'est le moment où elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas se comporter comme n'importe quelle femme, comme n'importe quelle veuve, éplorée, mais qu'elle a une mission plus haute.
Alors là-dessus, elle est partie vraiment comme une fusée, comme une bombe. Et elle ne s'est plus arrêtée. Elle ne s'est plus arrêtée jusqu'à sa mort, et c'était un peu ce qui a agacé sa belle-fille. Parce que quand la petite belle-fille est devenue l'épouse de Saint-Louis, qui était déjà roi, la belle-fille était reine. Et elle pensait que, mon Dieu, elle ferait la pluie et le beau temps dans le royaume. Bah, il y avait quand même la vieille reine-mère qui n'était plus rien, qui n'était même plus baillie du royaume ni rien, mais auquel le roi demandait des conseils, auquel les seigneurs demandaient conseils, auquel des seigneurs disaient, écoutez, le roi va faire telle chose, conseille-lui telle chose. Bon, elle était sur sa lancée, il n'y avait pas moyen de l'arrêter. C'est pas une femme qui serait arrêtée. Et alors, résultat, elle a continué jusqu'à sa mort. Et alors la petite reine était un peu agacée de ça. La petite reine était beaucoup plus jalouse de la belle-mère que la belle-mère n'était de la petite reine. La belle-mère était ravie, c'est elle qui avait choisi cette jeune petite comtesse de Provence, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était riche, parce qu'elle était bien élevée. Elle s'est dit, ça sera un bon résultat, elle a eu raison, parce que ça a été un très bon ménage, Saint-Louis et la petite Marguerite. Bon, la reine-mère était ravie, mais la petite était... C'est surtout la... On dit toujours que c'est la reine-mère qui était furieuse contre la petite. Non, c'est le contraire. C'est la petite qui était jalouse de la belle-mère qui ne lâchait pas prise.
C'est amusant de vous en entendre parler de cette façon, parce qu'on a l'impression que vous étiez là et que vous avez regardé, observé les relations entre ces deux femmes. Et, alors maintenant, une question qui va probablement soulever des tempêtes de protestation chez nos auditeurs, mais il y a une campagne depuis quelques années contre Saint-Louis, contre le caractère, contre la sainteté du roi Louis. Vous qui l'avez observé, vous qui le voyez vivre à travers les yeux de sa mère, quelle est votre opinion sur ce personnage?
Même pas au travers des yeux de sa mère, au travers de 1000 écrits, de mille traditions, archives, lettres, écrits, etc. Tout ce que vous voulez, c'était un personnage, lui aussi, extraordinaire. Parce qu'il était pieux, d'accord. Il croyait en Dieu, d'accord. Et il était également à une époque où il venait d'y avoir le Concile de Latran. Ce Concile de Latran a changé beaucoup de choses dans la pratique religieuse, dans l'organisation de la vie religieuse. Entre autres, il a codifié, si on peut dire, la confession. La confession n'existait pas d'une façon... La confession était beaucoup moins rigoureuse avant le Concile de Latran qu'après. D'où cette histoire de péché... Bon, c'est-à-dire, le Concile de Latran a codifié les fautes. Il y avait les fautes graves, les fautes pas graves. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, Saint-Louis, qui était pieux de nature, qui aimait Dieu, était intéressé par toute cette question théologique. Et la théologie était nécessaire pour réglementer un peu la manière, pas, j'allais pas dire pagaille, mais la manière un peu désordonnée dont les gens pratiquaient, ne pratiquaient pas l'hymne. C'était un homme d'ordre. La preuve, c'est lui qui a organisé et codifié notre justice. La justice qu'on a eue jusqu'à la Révolution française, c'était la justice codifiée par Saint-Louis. C'était un homme d'ordre. Alors, il avait de l'ordre dans la justice de l'État, et il a eu de l'ordre aussi dans l'organisation de l'Église et de la justice de l'Église. Mais il n'était pas pour autant sévère, parce que c'était un homme violent, il avait des colères terribles. Ah non, il avait ses défauts, il aimait bien. Bon, heureusement qu'il aimait sa femme, mais s'il n'avait pas eu sa femme, je crois qu'il en aurait aimé d'autres.
C'est pas forcément un défaut d'aimer les jolies femmes.
Mais non, mais il aimait les jolies femmes. Il était violent et coléreux. Et puis peut-être un peu maniaque et ordonné. Je vous dis, c'est lui qui a codifié la justice, c'est lui qui a organisé et donné libre cours aux bénédictins, parce qu'à cette époque, il y avait la grande dispute discussion entre franciscains et bénédictins. Et je crois qu'il donnait plutôt raison aux bénédictins, au rigorisme. Bon, c'est une question de caractère. On aime ça, on n'aime pas. Mais moi, je trouve que c'est pas un défaut.
Et comment Blanche...
Il était beau par-dessus le marché.
Oui, ce qui ne gâte rien. Non. Enfin, étant le fils de son père et de sa mère, il pouvait difficilement être contrefait.
Et lui, au moins, on a des statues. Il y a une statuaire sur le Saint-Louis. Il y a quelques églises en France qui représentent Saint-Louis, des statues de son époque. Et ce qui prouve que ça doit être exact, c'est qu'elles se ressemblent. À Reims, une autre, elles se ressemblent, ces statues. Donc, avec des grands yeux aussi.
Comme son père.
Oui.
Les yeux de sa grand-mère, d'ailleurs.
En plus.
Alors, on a des précisions de la part de.
Alors, mais
de
pourquoi
plusieurs
est-ce que
auditeurs.
Vous me dites. Ça m'intéresse que vous me dites qu'on critique Saint-Louis en quoi ?
Oh, ben, on critique Saint-Louis, vous savez bien, puisqu'il est l'inventeur de la rouelle, donc c'est l'abomination de la désolation. Donc, il ne peut pas être saint, puisqu'on a. On a refusé la canonisation de Isabelle la Catholique.
Parce qu'elle faisait.
Parce qu'elle avait chassé les Juifs d'Espagne.
Elle faisait taper dessus.
Donc, ça ne peut pas être une sainte. Et Saint Louis, ayant inventé la rouelle, qui était l'ancêtre de l'étoile jaune, il ne peut pas être un saint non plus.
C'est pas lui vraiment qui l'a inventé. Ça, si on le raconte. Vous savez, ça s'est fait. Ça existait déjà avant lui.
On vous répondra qu'on ne prête qu'aux riches.
On prête qu'aux riches, justement. Ça m'étonne qu'il ait. Non, je ne crois pas, mon cher, parce qu'il y a quand même des dessins et des manuscrits qui représentent la rouelle à bien avant Saint-Louis.
Donc, pour l'instant, laissons-lui sa béatification, espérons qu'il la gardera longtemps.
Mais il est saint, par-dessus le marché,
il
n'est pas simplement béatifié.
Il est canonisé, ne le fusillons pas. Un auditeur nous dit « La filiation entre Mahomet et les Capétiens passe par Rodrigue Diaz de Bizarre, dit le Cid. Hein » Bon, ne m'interrompez pas alors. « Dont la mère était une princesse musulmane. » Est-ce que ça correspond à...
Et ça, ça
pas de souvenirs.
Si, j'ai des souvenirs de ça, mais alors ça passe par les Portugais.
Ah.
Moi,
pourtant, ça devrait vous être
oui, mais ça
encore plus
moi,
agréable.
Ça m'intéresse parce que là, ça, moi, de toute façon, ça m'arrive. Mais par les Portugais, et c'était avant... voyons, parce que... Oh, c'est trop compliqué. Écoutez, je vous écrirai ça un jour.
Vous viendrez nous expliquer ça.
Oui, non, je peux le faire, mais c'est très long. On va perdre son temps, ça.
Alors, attendez, ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de remerciements. Mais il y a une précision. Voilà, lorsque le lion... Le mari de Blanche de Castille avait débarqué en Angleterre. C'est Louis le Lion.
Oui, on l'appelait Louis le Lion.
Lion oui. Le mari de Blanche de Castille avait bien débarqué en Angleterre, puisqu'il a été couronné à Londres en 1216 avant d'être vaincu par les barons anglais à Lincoln.
C'est ça, bravo. Oui.
Alors, tout à fait en dehors de ce sujet, une auditrice vous demande de parler de l'abbaye de Notre-Dame du Lys. Qui a été détruite par la municipalité en 56 ou 57, nous dit-on, dont il ne reste qu'une ogive classée.
Bon, cette auditrice, je la connais car elle m'a envoyé une lettre avec toute une brochure sur Notre-Dame du Lys. Je lui demande pardon, je n'ai pas eu le temps de la lire. Ah. Parce que c'est arrivé il y a, elle m'a envoyé ça il y a à peu près 2 semaines, mais j'ai un courrier tellement énorme. Madame, je suis désolée. Je vais m'instruire dès que je rentrerai à la maison. Mais je n'ai pas lu votre lettre. Si, votre lettre, je l'ai lue, mais pas votre brochure. Et sur Notre-Dame du Lys, justement. Pardon.
Et puis, alors une auditrice nous dit d'une façon assez drôle que les gens qui nous gouvernent ont oublié de citer Madame la Comtesse de Paris comme un parfait modèle d'intégration.
C'est-à-dire
ben, je pense qu'effectivement...
Ah oui, à cause de Novo, ça y est, j'y suis. Oui. Voilà,
bien. J'y suis. Alors, bien entendu, une auditrice, c'est un enchantement d'écouter la Comtesse de Paris. Elle nous réconforte et nous encourage. Merci à elle. Une auditrice vous dit toute son admiration et toute son amitié et son affection. Un auditeur vous souhaite longue vie, et nous nous joignons d'ailleurs à ce vœu, et ajoute que ce que vous dites, est, que vous êtes très intéressante et très charmante. Vous
merci.
Nous pratiquons beaucoup. Encore la galanterie à Radio Courtoisie. Je pense que ça durera très longtemps. Et pour ma part, madame, je voudrais vous poser pour finir une question pour mon club, si j'ose dire. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez Radio Courtoisie. Est-ce que vous écoutez Radio Courtoisie à Paris ou en Normandie ou les deux?
Je l'écoute presque. À eux, j'écoute jamais radio ni télévision, j'en ai pas. Mais je l'écoute chaque fois que je vais à eux en auto, parce que j'ai une radio, et alors là, je vous écoute.
Je me souviens d'ailleurs que votre chauffeur m'avait demandé des conseils pour régler voilà. Le poste de la voiture.
Oui. Et là, je vous écoute et j'aime beaucoup ça. J'aime vos musiques et puis ce que les personnes viennent dire, c'est toujours très intéressant.
Mais vous en êtes le témoignage.
Agréable et intéressant.
Je vous remercie de ces compliments qui nous vont droit au cœur. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre livre Blanche de Castille, mon aïeul, qui est paru chez Robert Laffont et qui porte une bande assez amusante puisque elle est illustrée de votre photographie. Avec ces quatre mots, une histoire de famille. Donc, on ne saurait mieux dire. C'est un livre qui se lit, comme on vous a écouté ce soir, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je conseille à tous les auditeurs de se jeter dessus. Victoria me l'arrache des mains, naturellement.
Merci beaucoup.
Merci, madame. Nous allons maintenant parler d'écologie. Si vous voulez
écouter, oui, ça
rester
me passionne.
Avec nous, bien sûr, avec grand plaisir.
Ça me passionne.
Monsieur Marc Dem, vous êtes là?
Je suis là.
Comment allez-vous?
Eh bien, très bien, très bien. J'espère que j'en ai de même de vous.
Je vais fort bien également. Vous me voyez ravi de toutes ces bonnes nouvelles. Marc, j'aimerais que, avant de nous parler de Iota Unum, boîte postale 52-78-101 Saint-Germain-en-Laye.
Oui.
C'est bien, vous avez
vu. Ah, du premier coup.
Vous répondiez à une question qui me vaut un courrier abondant. Il s'agit de l'attitude de la hiérarchie traditionnaliste vis-à-vis des affaires récentes, notamment des affaires Benetton, des affaires d'injures à la foi catholique. Parce que je vous avais demandé un jour s'il y avait eu des réactions, si la hiérarchie traditionnaliste avait agi et réagi. Vous m'aviez dit que vous alliez vous renseigner. Et puis des auditeurs me disent « mais on n'a pas eu de réponse ». Alors qu'en est-il ?
Eh bien, la réponse, c'est pour vos auditeurs ne l'auront toujours pas, car, en effet, il n'y a pas eu d'intervention très particulière, sauf quand même, le Chardonnay a publié un éditorial de Iota Unum sur la question, donc c'est manifesté. Mmh. Enfin, il n'y a pas eu d'action en justice, par exemple.
Mmh. Bien, ben voilà la réponse, donc on peut dire que l'Église... La hiérarchie traditionniste n'est pas intervenue plus que la hiérarchie consulaire. Qu'est-ce que je raconte? Conciliaire.
Conciliaire.
Quel lapsus révélateur, c'est extraordinaire. Merci Marc. Maintenant, venons-en à Iota Unum, au dernier numéro de Iota Unum. Comme d'habitude, si vous voulez nous donner une petite nouvelle pittoresque et désagréable, et puis une grande nouvelle agréable, ça sera parfait. Ça
bien,
vous donnera un bon échantillonnage.
Ce n'est pas très, très désagréable, puisque ce n'est pas d'une gravité extrême, puisque ça n'a pas réussi. Mais le Saint-Suaire de Turin a fait l'objet d'une tentative de vol.
Allons.
C'était le 4 novembre, et le système d'alarme a aussitôt retenti. Les gens sont arrivés, et on trouvait qu'on avait essayé de prendre les empreintes des cadenas qui ferment la grille. Mm-hmm. En effet, il y avait des traces de cire à empreintes sur ces cadenas. Voilà. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était sans doute donc une opération préliminaire et que par la suite, les voleurs pensaient s'emparer du Saint-Suaire. Oui.
C'est quand même assez étonnant de penser qu'un objet de cette valeur est simplement enfermé avec des cadenas, même avec un système d'alarme. Et je pense que le Vatican, qui en est désormais propriétaire, devrait avoir les moyens de se payer quelques gardes suisses pour le garder.
Il doit être transporté dans le tout près de l'hôtel central, tout près du maître-hôtel de la basilique. Et avec un système qui sera certainement au moins aussi efficace, on promet que ce système sera très étudié.
Acceptons-en l'augure.
Acceptons-en l'augure.
Encore que sa disparition arrangerait vraiment beaucoup de monde.
Oui.
Madame la comtesse de Paris, qui est parmi nous, pose la question, pourquoi est-ce que ça arrangerait tant de monde? Ou pourquoi est-ce qu'on voulait le voler?
Oui, eh bien, parce que ça gêne énormément ce Saint-Suaire, qui est une preuve, qui est un témoin de la passion du Christ et de sa résurrection.
Hein. Ça embarrasse beaucoup de gens.
Qui est authentique, et des quantités de personnes maintenant s'amusent à dire des choses tout à fait désagréables en disant que c'est des faux, mais c'est impossible. Enfin bon, ne rentrons pas dans cette polémique, on n'en sort pas, mais moi je sais que je connais des écrits, des études et des choses qui ont été faites qui prouvent que c'est vraiment un Saint-Suaire qui a entouré un homme mort à l'époque du Christ, en tous les cas. Et les analyses qu'on a faites pour contredire ce fait ont été prises sur un petit bout d'étoffe qui a été recousu dessus à l'époque où le Saint-Suaire a brûlé, en 400 et quelques, du temps du couvent de je ne sais où, là, de Brou.
C'est une des hypothèses qui est avancée pour expliquer la non-concordance des...
Et l'analyse de ce tissu, c'est un tissu qui est en effet de 1400 et quelques. C'est pas celui du Saint-Suaire.
En tout cas, c'est vrai que la disparition du Saint-Suaire permettrait de mettre un terme définitif à la polémique.
Surtout que vous savez qu'il y a de nouvelles analyses qui sont faites dans des conditions bien différentes, dont on n'a pas encore les résultats. Elles sont faites d'une façon très discrète, mais avec des scientifiques surveillés, non seulement authentiques, mais surveillés.
Eh bien, j'espère que...
Et de bonne foi.
J'espère que vous nous donnerez, Marc, les résultats de ces analyses dès que vous en aurez connaissance par vos informateurs privés et habituels. Alors maintenant, une nouvelle moins... Enfin, celle-là n'est pas triste puisque la tentative a échoué, mais au moins une nouvelle heureuse.
Eh bien, nous parlons dans le prochain Iota de Noël, puisque Noël approche, et des allégations d'un savant anglais, Collins Humphreys, professeur à Cambridge, qui a cherché lui aussi, à son tour, ce que c'était bien que cette étoile dont on parlait. Mm-hmm. Et alors, vous savez qu'on a fini par dire que c'était une comète. Lui, il a trouvé qu'en effet, c'était une comète, puisque la conjonction de Saturne et Jupiter, qu'on accusait d'avoir fait une étoile plus grosse donc, que les autres, à ce moment-là, ne s'est pas produite à l'époque donnée. Mm-hmm. Alors, il dit donc qu'il faut revenir à cette histoire de comète. Et il cherche quelle comète ça pouvait être. Il va consulter donc l'astrologie chinoise, ancienne, et il trouve un certain nombre de comètes apparues entre l'an 12 avant Jésus-Christ et l'an 4 avant Jésus-Christ également. Alors il finit par en trouver une, qui est celle de l'an 5. Mmh. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que... il va en déduire la date dans l'année, la date donc de la naissance de Jésus, qu'il situe non pas à Noël, mais à Pâques. Alors, oui, à cela, il est évident qu'on peut dire tout de suite que c'est très gentil, ces plans sur la comète, mais Saint Matthieu, scientifiquement, on doit partir du document que nous avons. Or, le document, c'est Saint Matthieu, et Saint Matthieu parle d'une étoile, pas d'une comète.
Oui, je pense qu'il était capable de faire la différence quand même, déjà à l'époque.
Oui.
Contrairement à ce qu'on dit, Saint Matthieu n'était pas forcément un imbécile.
exactement. Oui. Et alors, d'autre part, les mages n'étaient pas non plus des imbéciles, et ils valaient bien les Chinois. Ils observaient le ciel eux aussi.
Surtout que c'était probablement d'ailleurs des astrologues.
C'était certainement, oui, des astrologues, entre autres choses. Et ils connaissaient, on sait que, on sait comment dirais-je, ce qu'était la valeur de l'astrologie ou de l'astronomie, disons, des régions de la Méditerranée, de la Mésopotamie, mm-hmm. hein, des Chaldéens.
Les Chaldéens, oui.
Alors, donc, eux aussi ont vu autre chose qu'une comète, tout au moins. Non. Ce n'est pas une comète dont ils parlent. Ils disent non seulement que c'était une étoile, mais ils disent, nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Donc c'est bien une étoile particulière, hein, ce n'est pas n'importe quelle étoile. Voilà. Alors,
donc, M. Humphrey a perdu son temps.
Il a perdu son temps.
Enfin, pendant ce temps-là, il n'était pas au café.
Comme ça se passe, régulièrement, on essaie de nous faire mettre Noël, la nativité, toute la naissance de Jésus à une autre date. Et
surtout
moi,
pas le 24 décembre.
Je dis que c'est bien le 24 décembre, dans la nuit, que Jésus est né. Et je ne le dis pas parce que ça me plaît, je le dis parce que nous avons des sources, des éléments historiques qu'il faut rappeler et que nous rappelons. D'abord que Saint Jean Chrysostome, dans une homélie sur la nativité prononcée au IVe siècle, a précisé que les chrétiens d'Occident ont toujours célébré Noël le 25 décembre. Et qu'en supplément, les actes du recensement, du fameux recensement de Judée, ont été consignés à Rome et mises aux archives publiques, et que tout le monde pouvait consulter les archives publiques, jusqu'au moins, jusqu'aux invasions barbares. Alors, les premiers chrétiens, certainement, d'après les pères de l'Église qui l'affirment, ont certainement été consultés ces archives, et c'est ainsi qu'ils ont fixé la date de Noël au 25 décembre.
Merci Marc. On pourra en savoir plus, donc, commander Iota Unum, boîte postale 51...
52.
Ça n'a pas duré. Boîte postale 52, 78-101 Saint-Germain-en-Laye.
Oui.
Sur simple carte de visite, on reçoit pendant voilà, 3 semaines consécutives Iota Unum, mais après, on est accro.
Voilà.
Et, alors, je crois que vous avez déjà... vous êtes sur le point de gagner une lectrice illustre, puisqu'il s'agit de la Comtesse de Paris qui est dans notre studio et qui a l'air de s'intéresser beaucoup à Iota Unum. Je vous donnerai l'adresse à laquelle faire un service de cette lettre confidentielle d'information religieuse, puisque c'est de cela qu'il s'agit, madame. Merci Marc, à bientôt.
À bientôt.
Alors maintenant, comme promis, tournons-nous vers Louis Pasquier, auteur de « Écologie traditionnelle ». Le titre paraît presque redondant, si tant est qu'il puisse y avoir Oui, Patrick me fait remarquer que 52, c'est le numéro de la boîte postale de Marc Dem, et que 51, c'est le pastis. C'est vrai. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est vrai.
Il y a de la nuit.
Oui. Cool. Oui. Si tant est qu'il puisse y avoir une écologie non traditionnelle. Alors, en quoi l'écologie dont vous nous parlez est-elle traditionnelle?
Ah, c'est une bonne question. Mais en première partie, je vous remercie de me recevoir, parce que nous sommes déjà vus, mais là, c'est pas un caractère redondant, vous témoignez là d'une amitié qui me touche beaucoup. Cela étant, l'écologie est tombée bien bas, si je puis dire, puisque elle anime des mouvements politiques qui voient dans cette nature un moyen électoral, d'une part, pourquoi pas, beaucoup en voient, mais surtout, il caractérise par le mot « environnement », qui veut dire que l'on égocentrise, c'est bien ça, cet aspect, cette question, à telle enseigne que on cherche à la rendre toujours utile, en quelque sorte. L'autre fois, j'étais dans les forêts du Midi et il y avait un grand panneau « Protégeons la forêt, elle nous est utile ». Je trouve ça parfaitement, comment dirais-je, affligeant. Alors que cette forêt peut nous instruire, nous pouvons en débattre ou en parler du moins, mais son utilité est accessoire et secondaire.
Ça veut dire, aimons notre mère, elle nous donne du fric pour aller au bal le samedi soir.
Oui, elle nous donne du fric pour nous. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Notre mère ne me semble pas une mauvaise expression, hein, cela étant. Parce que il y a une filiation qui m'apparaît traditionnelle et tout à fait établie. Mais on ne peut véritablement être écologique que dans la tradition qui veut que l'on considère la nature sous un certain angle.
Alors vous expliquez dans votre livre, dès le début, que au fond, l'homme dans ses rapports avec la nature, avec l'environnement, avec la planète, a toujours été, enfin jusqu'à un moment où s'est produite la dramatique rupture, a fait partie de l'environnement. L'homme n'était pas au centre de l'environnement, il en faisait partie. Ce qui s'oppose d'ailleurs, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure, avec une certaine, avec la conception chrétienne du rapport de l'homme et de la nature, puisque saint Augustin nous dit que l'homme est le jardinier de Dieu. Il est donc l'homme qui maîtrise la nature et qui la gouverne. Il n'est pas celui qui en fait partie. Il la domine.
Je sais bien. Et en me permets, nous nous opposons. Vous voyez la validité du propos.
C'est une opposition irréductible. Mais pour en revenir à cette question, à quel moment et dans quelles circonstances se déroule cette rupture avec l'ordre naturel, c'est-à-dire avec la tradition?
Oui, je suis en difficulté pour en parler. Parce que j'imagine que je pourrais choquer, et je ne veux pas en l'espèce choquer, ça me semblerait tout à fait inopportun, maladroit et mal élevé. Mais, en gros, si je puis dire, très en gros, on a oublié le monde païen au profit d'un monde intellectualisé, en quelque sorte. Et ce faisant, on a rompu avec la nature. Cette rupture, elle est finalement assez récente, mais elle s'accentue de jour en jour et on tombe inévitablement dans un matérialisme, qu'on le veuille ou non, dans un matérialisme qui fait qu'on aboutit aux attitudes, absolument démentes des uns et des autres. Cela étant, dans la mesure où je suis allé au Gobelin pour défendre cette noble institution, je défilerai aussi avec les Verts dans la mesure où j'estimerai que ma petite personne pourrait avoir une incidence aussi mineure soit-il.
Oui, enfin, si tant est que les Verts défendent la nature, ce qui reste à prouver.
Oui, tout à fait. Mais enfin, je veux dire par là que dans la mesure où il y aurait un chemin qui m'apparaîtrait objectif et opportun, je le ferai.
Bon. Pour en revenir au sujet de l'écologie traditionnelle, je réitère ma question. Qu'est-ce qui fait que l'homme se met en position de rupture avec avec son milieu, son milieu naturel?
Alors, écoutez,
parce qu'en général, on situe cette rupture aux alentours de la Renaissance. Alors, est-ce que vous partagez cette opinion?
Pas du tout. Pas du tout. Mais d'ailleurs, la chronologie n'a pas grande importance dans cette affaire. C'est une question d'état d'esprit. Pour revenir aux Écritures, comme ça tout le monde va être d'accord en quelque sorte. Il est dit que Dieu fit l'homme à son image. Ça peut être
Et à sa ressemblance.
Et à sa ressemblance, pardonnez-moi. Ça peut être une expression qui peut être prise sur le plan affectif, et, ma foi, conduire à une certaine attitude. Et puis, ça peut être pris quasiment à la lettre. Ça veut dire que, ça pourrait vouloir dire, et ça veut dire, pour moi en tout cas, et pour la tradition, que l'homme est un résumé de la création. Et c'est un résumé, mais véritablement, en parlant, enfin, scientifiquement parlant, il y a au fait, au pluriel, qu'il contient en lui toutes les parcelles, enfin, qui contient en lui d'une façon parcellaire, s'entend, quasi minuscule, évidemment, tout ce qui est contenu dans la nature. Et que par conséquent, il peut raisonner, à tout raisonner au sens électrique du terme, au sens physique du terme.
Entrer en résonance.
Entrer en résonance avec ce qui l'entoure. Entrant en résonance, il ne peut plus considérer comme l'arbre, la plante, l'animal, comme sa chose. Il peut le considérer comme un témoin. Et considérant comme un témoin, il aura une attitude tout à fait différente, comme un témoin qui est capable de l'instruire. Parce qu'on situe tout par rapport à l'homme dans son utilité immédiate ou même plus lointaine. Là, je regardais, je me promène souvent dans les forêts, vous imaginez, et je voyais des anamites tumouches, ces champignons avec une tête rouge et des pointes blanches, qui effraient les individus parce qu'ils pensent que s'ils en mangeaient, pourquoi pas, je ne sais pas, ils seraient empoisonnés immédiatement, ils mourraient. Donc ils donnent des coups, ils donnent des coups de pied dans ces champignons. En fait, quand on examine les documents, hein, et quand on peut réfléchir un tout petit peu au bien fondé de ces documents, si je puis dire, on s'aperçoit que ces champignons vivent en symbiose avec les chênes notamment, avec les cèpes. C'est pour ça que quand vous avez trouvé des cèpes, vous trouvez de ces champignons. Ce qui veut dire que l'un a besoin de l'autre.
Ce qui a permis à Sacha Guitry d'écrire un de ses plus beaux romans, d'ailleurs, qui s'appelle Le roman d'un tricheur. Qui commence comme ça.
Qui commence comme ça. Il avait été privé de champignons. Toute sa famille était décédée, suite sur lui, bien évidemment, toute sa famille, donc.
Donc, mais de l'avantage de la manie de Tumouche.
Oui, bien sûr.
Dans l'alimentation des familles bourgeoises.
Bien sûr, bien sûr. Mais de leur gros avantage. En ce qui concerne l'équilibre des forêts, on se plaint de l'incendie des forêts, enfin, il y a l'histoire des broussailles, maintenant on commence quand même à se rendre compte qu'il fallait procéder différemment. Mais s'agissant de toute cette nature qui nous entoure, de tous les produits qui nous apparaissent, il y a lieu de s'interroger sur leur relation. Il n'y a pas d'éléments nuisibles, il y a des éléments complémentaires. Évidemment, s'il n'y avait que des guêpes, dans ce studio, il faudrait bien les détruire parce que l'homme ne pourrait pas vivre. Mais les guêpes ont leur utilité, l'anamite a son utilité, et en l'espèce, une utilité beaucoup plus considérable qu'on ne le croit. Tant et si bien qu'en privant le chêne de ses champignons, en privant d'autres éléments d'équilibre, nous parlions avec la comtesse de ces ormes, on a détruit en quelque sorte ce qui pouvait détruire. On a détruit l'équilibre. Moyennant quoi, il n'y a plus d'ormes. Mmh. L'homme devrait marcher dans une forêt ou dans une prairie comme il marche dans une cathédrale. C'est rigoureusement la même attitude, à la fois de déférence et de recherche de compréhension, de recherche de développement.
Vous avez très très bien répondu. J'ajoute que votre livre répond encore mieux à la question de l'usage de la tradition dans la sauvegarde de la nature, parce qu'on s'aperçoit à sa lecture, c'est une lecture qui est déjà ancienne pour moi, mais j'en ai gardé le souvenir, on s'aperçoit qu'effectivement, la tradition, avec un grand T,
oui,
nous enseigne le respect de la nature comme elle nous enseigne le respect de bien d'autres valeurs, et que si on respecte cette tradition, si on respectait cette tradition, on serait amené à vivre d'une façon beaucoup plus agréable, probablement.
C'est-à-dire, le respect découle de notre attitude. Ce n'est pas un respect, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas du civisme. C'est, comment dirais-je, c'est la conséquence d'une compréhension. Ce qui fait que ça ne peut pas être atteint. Il n'y a pas d'artifice dès lors que l'on se comporte dans la nature de cette façon. Il ne peut pas y avoir d'attitude artificielle. Ce n'est pas du civisme. Encore qu'il ne faille pas oublier que le civisme, c'est nécessaire lorsqu'on vit en société. Mais c'est un comportement qui est le fruit d'une compréhension. C'est ça la tradition. La tradition n'a jamais imposé quelque chose. Elle a proposé aux hommes une compréhension des éléments, et cette compréhension enfantait une disposition.
Merci, Louis Pasquier.
On peut prolonger
cet entretien en lisant votre livre. Je rappelle que vous êtes par ailleurs non seulement l'auteur de ce livre, mais vous êtes un personnage plein de ressources, puisque vous avez fréquenté des gens comme Gurdjieff, comme Schwaller de Lubitsch, comme Hubert Benoît ou Alain Danielou, qui ne sont pas n'importe qui ne sont pas des gens de notre famille à proprement parler, mais qui sont au moins des gens intéressants, et on en reparlera avec
Danielou
vous.
Danielou n'est pas trop éloigné.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Madame, vous voulez nous quitter, nous vous voyons partir avec regret.
On a passé tellement vite que je ne m'en rendais pas compte, il est 9h moins le quart déjà.
Et oui, il est déjà 9h moins le quart.
Tout le monde à la maison a dîner.
Eh bien écoutez, je pense qu'ils vous attendent avec beaucoup d'impatience.
J'ai beaucoup aimé, j'espère que vous me demanderez de revenir.
Avec grand plaisir.
J'apprends beaucoup de choses chez vous.
Merci madame. Eh bien, nous saluons Madame la Comtesse de Paris, et puis je me tourne sans attendre vers notre artiste, si j'ose dire, notre sculpteur, parce qu'il n'y a pas de féminin à ce mot.
Non.
Marie-Josée Tordre-Bavoura, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise?
Je suis Marie-Josée de Bravura.
Ah oui, plus tard, de Bravura, voilà. Bien, alors, vous savez qu'on a mis au point une espèce de jeu. Vous venez une fois par mois, le troisième mercredi du mois, pour nous parler de votre art, de l'art en général. Et je crois que ce soir, il faudrait parler en deux mots de la sculpture proprement dite, du combat avec la matière.
En deux mots, ça va être très dur.
Ça va être dur. Mais on va essayer 10 mots, alors peut-être.
Il faut m'en laisser au moins 10 ou 12, sinon j'arriverai jamais à vous expliquer. Dans la sculpture, il y a d'abord deux choses à bien séparer. Il y a deux métiers totalement différents. Il y a le métier d'artisan sculpteur, qui est celui qui est le plus connu dans la population, parce que tout le monde imagine qu'on a tous des muscles extraordinaires et qu'on doit enlever. Et il y a le métier de maître sculpteur, qui est de créer des formes et des volumes qui soient nouveaux pour qu'ils soient créatifs, donc artistiques. Il y a donc deux métiers différents. Le maître sculpteur doit connaître le métier de l'artisan sculpteur, sinon il ne pourrait pas créer des formes qui pourraient être reproduites, agrandies ou mises dans des lieux différents s'il n'a pas déjà une très grande connaissance des lieux et de la matière et du travail. Et l'artisan sculpteur, lui, doit savoir avoir une technique remarquable pour arriver à reproduire et comprendre l'esprit du maître sculpteur. Il y a donc deux métiers différents qu'il ne faut absolument pas confondre, car ils sont différents.
Alors, je voudrais préciser une chose pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu surpris du caractère très très primaire de mes questions. Mais je précise que c'est volontaire, car il ne s'agit pas du tout dans cette émission de concurrencer l'émission de Philippe Lejeune, par exemple, ou d'entamer un débat par émission interposée avec Georges Mathieu, qui était à ce micro il n'y a pas très longtemps. Ça n'est pas sur le même niveau que ça se passe. Nos entretiens très brefs ne s'adressent pas à des gens qui connaissent parfaitement le monde de l'art plastique.
Non,
de
c'est
la
même
peinture.
L'inverse.
C'est exactement l'inverse.
Non, c'est
destiné
l'inverse,
à essayer d'écarter certains malentendus et de faire connaître certaines vérités simples.
Voilà, de replacer dans le contexte des choses que tout le monde croit comprendre et croit connaître et en définitive ne connaissent pas.
Alors pour en rester à la sculpture ce soir, il y a un mot qui revient tout le temps. On dit que la sculpture consiste à enlever ce qu'il y a en trop.
Et oui, alors ça, quand on enlève ce qu'il y a en trop, on fait œuvre d'artisan sculpteur. Après beaucoup d'années de compétences et beaucoup d'années d'essais, un maître sculpteur peut éventuellement créer directement sur le bois ou la pierre. Mais là aussi, il y a une confusion dans la tête des gens qu'il est indispensable d'enlever. C'est que si vous imaginez une œuvre monumentale, comme on essaye de le faire croire, qui a été créée et réalisée par un maître sculpteur, c'est faux. Pourquoi ? Nous, notre œil accommode à, mettons, 30 cm ou 40 cm. Si un maître sculpteur veut réaliser lui-même, ça veut dire créer directement dans le bloc, il est obligé, suivant la hauteur, si c'est 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, de descendre de son échafaudage, de se reculer à 100 mètres pour arriver à voir l'ensemble. Donc tous les sculpteurs du monde entier, aussi bien les Michel-Ange que n'importe qui depuis toujours et maintenant aussi, on est obligé pour créer de passer par le modelage, par la terre. Et à ce moment-là, lorsqu'on a envisagé de créer quelque chose avec les volumes et les proportions, on l'agrandit, ou le plus souvent, on le fait agrandir, même si ça enlève un petit peu de la, du rêve du spectateur.
Donc l'image traditionnelle du sculpteur avec son béret, sa blouse grise, son burin et son marteau, c'est une image à écarter.
Pas du tout. Quand on est en train de créer, on peut avoir envie, à un moment donné, de faire une œuvre qui est, moi je dis tout le temps, à moitié chemin entre artisanat et maître sculpteur. Pourquoi ? Lorsqu'on travaille sur un bloc de bois ou sur un bloc de pierre, la pierre et le bois étant des matériaux riches, nous apportent des choses. C'est un échange entre le matériau et l'artiste. Alors que quand on est devant une motte de terre, je suis désolé, mais là c'est vraiment l'artiste qui fait tout et qui l'impose.
J'avais lu il y a fort longtemps un livre dans lequel la différence était faite, une très très grande différence était faite entre le charpentier qui travaille le bois et le charpentier d'acier, enfin l'homme qui travaille l'acier. Parce qu'on expliquait que le bois était un matériau qui vivait, qui se défendait et qui ne se laissait pas traiter comme on veut, alors que le métal est un matériau qui n'a pas de noblesse parce qu'on peut le tordre, on lui donne la forme qu'on veut, on le force à prendre une forme et il obéit à cette injonction.
C'est vrai et faux, parce que le métal aussi, sous certaines conditions, vous le savez, se dilate et rétrécit. Non, moi, alors là, je ne suis... Où cette personne avait raison, c'est que c'est vrai, personnellement, je trouve aussi que le bois donne plus. Parce que le bois, il y a une couleur, il y a une matière, il bouge, bon. Mais dans les matériaux ferreux, on a aussi ce problème. Si on commence à s'amuser à mélanger du bois et du laiton et de l'acier et jouer avec les couleurs, on peut aussi à l'infini s'amuser. Donc c'est vrai et pas vrai. On peut plus facilement domestiquer le métal, mais il résiste aussi beaucoup plus que le bois. Par exemple, quand on veut faire une courbe dans du métal, vous verrez que c'est infiniment plus compliqué.
Je pensais à ça parce que vous nous parliez de la différence qui existe entre le morceau de marbre sur lequel on va travailler et le morceau de terre qu'on va modeler. C'est vrai que la terre est beaucoup plus, elle est par définition disciplinée, souple et obéissante, alors que le marbre, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de repentir dans le marbre. Une fois que le morceau est enlevé, il est enlevé pour de bon, on ne peut pas le recoller.
Oui, sauf si on fait de l'arabescon.
Merci Marie-Josée de Bravoura. Alors, vous avez une école, enfin une...
J'ai un atelier.
Un atelier, oui. Où on peut vous rencontrer, où on peut vous voir travailler, vous interroger, et puis suivre vos leçons, prendre votre enseignement.
C'est un petit peu difficile, étant donné que Radio Courdoisie n'est écoutée que sur Paris et sur la Normandie, et que mon atelier est près de Broue, donc ça ferait un petit peu loin. Mais on peut me téléphoner très bien à Paris, où je suis assez souvent, pour avoir d'autres informations, s'il le faut.
Alors, si vous voulez nous rappeler à quel numéro on peut vous joindre.
À Paris, c'est le 47 47 74 06.
47 47 74 06, c'est un numéro facile à retenir parce que 47 c'est répété, 74 c'est le contraire, et 06 bah, c'est ce que vous voulez.
Bah là vous êtes très créatif.
47 47 74 06. Merci Marie-Josée, à bientôt pour essayer d'approfondir ou d'avancer encore un petit peu.
C'est plutôt d'avancer que d'approfondir.
Oui, nous avancerons.
Bonsoir.
Serge, il nous reste 5 minutes pour parler de politique. On va parler de politique parisienne, on va parler de la campagne qui se prépare.
Tout à fait, qui a commencé d'ailleurs.
Qui a commencé.
Et pour laquelle il y a une étape importante, lundi 2 à 20h, avec une réunion 8 rue d'Athènes, salle des agriculteurs. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Bruno Maigret, qui a en ce moment beaucoup de choses à dire, car je crois que...
Il a tellement de choses à dire, d'ailleurs, qu'il ne nous a pas envoyé sa chronique hebdomadaire. Je pense qu'il a eu trop d'occupations.
Donc, je le répète, 8 rue d'Athènes, lundi 2 à 20h, salle des agriculteurs, Bruno Maigret sera l'invité. Et nous pourrons à ce moment-là, bien sûr, avec une assistance que j'espère nombreuse, discuter des propositions, des fameuses 50 propositions, mais de tout le reste également. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, ce n'est pas vraiment de la politique, mais je crois qu'il faut répondre à quelques auditeurs qui nous ont écrit parce qu'ils ont eu du mal. Il y a une poignée de notes, là, qui concordent toutes. Ils ont eu du mal à trouver minutes dans les kiosques aujourd'hui. Et Jean-Yves Le Gallou a effectivement réussi quelque chose de fort sympathique puisqu'il était invité hier sur, je crois, la 2. Et il a montré minutes et donc il nous a fait une promotion qui nous est habituellement refusée Et donc, cette petite publicité a provoqué certains réflexes d'achat. Et hélas, hélas, les NMPP étant en grève, il y a eu du retard dans la distribution, si bien que le journal n'était pas dans les kiosques, mais il y sera demain. Donc, ça n'est que partie remise et il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà pour répondre à ces auditeurs.
C'est quand même une coïncidence triste.
Oui, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il faut savoir que le journal est livré au NMPP le mardi matin et qu'on nous annonçait la grève mardi matin et ils ne pouvaient pas savoir que,
le mercredi, le canard
que Jean-Yves Le Gallou ferait ceci le soir. Donc voilà pour le reste, eh bien, nous continuons à tenir des réunions. Il y en avait une il y a quelques jours qui a été une grande réussite. Il y a quelques jours, non, c'était avant-hier puisque nous avons refusé du monde. Alors je demande à ceux qui veulent voir Bruno Maigret de prendre leurs précautions et de venir tôt.
L'entrée est payante toujours ?
Oh, toujours, bien entendu. Nous n'avons pas les moyens de nos concurrents ou adversaires et donc nous devons mettre à contribution de façon permanente tous ceux qui pensent comme nous et qui méritent que notre combat vaut la peine d'y apporter un peu d'argent, du temps, de la bonne volonté et quelques sacrifices.
Ce qui est amusant, c'est que récemment on lisait des papiers dans la presse sur le financement des partis politiques et je crois que c'est le garde des Sceaux, Nallet, a dit que tous les partis politiques avaient recours à des méthodes...
Moi, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a amusé parce que...
À des méthodes illégales pour
retrouver de l'argent. Je trouve absolument splendide que les partis politiques se réunissent sous forme de commission, peu importe, pour découvrir que les partis politiques, c'est-à-dire eux-mêmes, trichent. C'est assez amusant.
Oui. Parce que je crois que... Mais le monde politique français est un peu schizophrène en ce moment.
Oui, je ne sais pas. Je pense qu'il est surtout idiot.
Autrement, comment se présente ? Est-ce que tu as des informations sur la façon dont se présentent ces élections, à Paris en tout cas ?
Est-ce qu'on peut... La réunion de cette semaine nous a montré que nos concitoyens se mobilisaient bien. Nous commençons à afficher boîte et tractée. D'ailleurs, on va entrer dans quelques jours, puisqu'à partir du 1er décembre, compte tenu des nouvelles lois sur le financement des partis et la limitation des dépenses, il est interdit d'afficher pour la candidature pour laquelle les électeurs auront à se décider en mars. Donc, normalement, plus personne ne devra afficher. Alors, nous avons déjà affiché, et je remercie les militants qui se sont donné beaucoup de peine, et nous allons arrêter. Je suis persuadé que les partis qui ont voté la loi, car nous la subissons, mais eux l'ont votée, vont afficher allègrement très prochainement, car je ne vois pas le Parti Socialiste ne faisant pas campagne et n'affichant pas, je ne vois pas le RPR n'affichant pas, comme ils sont en retard et n'ont pas encore annoncé leur candidat, il y aurait enfin des élections dans lesquelles personne, aucun électeur n'aurait vu la tronche des candidats, ce serait une première. Oui, mais je crois que ces partis qui ont voté cette loi vont afficher. Alors
à
ce moment-là, bien sûr,
de la violer après l'avoir
voilà,
votée.
Comme d'habitude, alors à ce moment-là, nous afficherons à nouveau, nous reprendrons notre effort.
Merci. Alors, je reviendrai tout à l'heure. Si Monsieur Pasquier retrouve l'adresse à laquelle le Noël des animaux est organisé, il me la donnera. Je rappelle deux adresses qui m'ont été demandées, enfin deux renseignements qui m'ont été demandés à plusieurs reprises. Nous avons invité la semaine dernière un audioprothésiste, audioprothésiste de France, qui s'appelle Pierre Seymour. Je redonne son adresse parce qu'on me l'a demandé. Fanny et Pierre Seymour, c'est 24 rue Catulienne à Saint-Denis, 93 200. Le numéro de téléphone 42 43 70 deux fois. Il nous a présenté, je sais pas si vous avez entendu, un tout petit appareil qu'on met dans l'oreille et qui permet d'entendre parfaitement. Et les titres des livres de Jimmy Dieu sur les petits hommes gris, j'ai reçu là-dessus une correspondance dont je vous parlerai la semaine prochaine. C'est Hébé Alerte Rouge et L'Entité Noire d'Andamoka. C'est paru aux éditions Vaugirard aux presses de la Cité. Voilà. Quoi d'autre? Alors, l'association de protection animale, Fondation Brigitte Bardot. Le siège, c'est 4 rue Franklin, 75-116 Paris, et le téléphone 45-25-24-21 pour tout renseignement sur le Noël des animaux. Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire et outrepassé le temps qui nous était imparti. Je vous souhaite une très bonne semaine. À mercredi prochain. Que Dieu vous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch assisté de Victoria, document d'archives de Radio Courtoisie du 27 novembre 1991, diffusé mercredi 12 août 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé également jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.